Vous écoutez
RMC.
RMC.
Mais je vais quand même pas pleurer parce que le Barça a pris 4-0 quand même, faut pas déconner les mecs.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
Tu marres sur Baptiste, il y a faute quand même.
Il y a un coup des limites.
Il y a un coup de cul, mais il y a rien d'extraordinaire.
Bon, non, il y en a marre. Non.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Génération After spécial Drôle de Dame, la seule émission à la radio qui parle pendant 2 heures de football étranger, avec ce soir pour l'Angleterre une drôle de dame qui d'ici un an sera plus suivie sur Instagram que Cristiano Ronaldo, boosté par sa nouvelle collaboration avec le mythique Match of the Day anglais. Profitons-en les amis avant qu'il nous échappe. Bonsoir Julien Laurence.
Salut Nico, bienvenue à toi, enfin bon retour. Welcome back. Quoi,
consécration pour toi, j'ai vu ça aussi. Hein. T'as fait un
merci,
petit
ouais, très bien, si on m'avait dit ça il y a 20 ans.
Quelle émotion.
Merci à tous les gentils messages que j'ai reçus aussi.
Congratulations.
C'est l'émission mythique du football européen.
Merci beaucoup. Ah,
ouais, c'est Saturday Night Live aux États-Unis quoi.
Ah oui, non, mais c'est facile.
60 ans, elle a l'émission. Match of the Day, 60 ans.
Bravo. Ça vaut pas aller dans le Dame non plus, ni l'after.
Non, ça c'est sûr. C'est sûr.
Pour l'Italie, dans le Dame qui a déserté la botte pour aller chez les Bataves, histoire de relancer l'Ajax Amsterdam. Bonsoir, Johan Crochet.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
On a vu ton petit week-end sur les réseaux, le soleil, ouais. Les canaux Amstelodamois, comme ça qu'on dit.
Exactement, mais plus sympa à Utrecht.
Ah, Utrecht, on connaît pas.
Amsterdam, ça devient galère. C'est entre c'est... le monde, les vélos dans tous les sens, les l'odeur,
les vélos, ça
l'odeur problème. Aussi dans
l'odeur.
Ah, ça devient
l'odeur de d'herbe.
Oui, ça devient très compliqué.
C'est pas toujours désagréable, cette odeur-là.
Ah, moi, j'ai horreur de ça.
Ah, d'accord.
Bon, donc Utrecht, méconnu, mais très intéressant.
Voilà. Carte postale. Pour l'Allemagne, une drôle dame qui, tel un samouraï, va encore sabrer cette saison les minutes musicales de ses trois camarades, car il est un insoumis. Attention à pas te faire pousser dans la piscine, ça pourrait te revenir comme un boomerang. Bonsoir Paulo Breitner.
Willkommen zurück, Herr Jamain. Mais oui, merci beaucoup.
C'est pour l'hommage à Alain Delon.
Merci, tu l'as, c'est cool, je suis content. J'avais peur. Bah, évidemment, oui, tu l'as.
À part où il y a des cherchures, je pense que tout le monde l'a dans le monde.
Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. J'ai vu que quelqu'un t'a demandé dans l'after. Pour un non initié, il faut commencer par quoi, Delon?
Bah, Daniel a cité Clément en 1960, évidemment.
Plein soleil aussi, et, magnifique.
Ouais, bien, c'est magnifique. Mais
certains diront, t'as un truc sur Ripley, mais c'est juste un remake.
Plus que ça, même.
Oui.
Mais c'est bon. Bah, j'ai tenté. Le Ripley, mais j'ai pas pu aller au bout.
Pour l'Espagne, drôle dame qui enchaîne une 19e saison dans l'after, car il aime être en plein soleil, justement. Fredo et ses frères sont encore là lundi soir.
Bonjour, oh, hola chicos, ça va? Je sais qu'il y a Utrecht, il y avait un évêque très célèbre.
Ah bon?
Ouais, Saint-Frédéric.
Ah,
et voilà. Frédéric. C'est comme ça que je connais Utrecht.
C'est un nom flamand, Frédéric.
Non, c'est Germain. Enfin, c'est allemand.
Germain.
C'est Friedenreich. C'est-à-dire la puissance et la paix.
Friedrich.
La paix et la puissance.
Friedrich.
Friedrich. Exemple, Frédéric, c'est Friedrich.
À une postiche?
Ah, une postiche. Ich bin fertig. Let's go, on y va,
t'es
les
fini.
Amis.
Non, t'es pas fini, t'es au début là.
Je suis prêt, fertig. Non?
Fertig, c'est.
Bon, peu importe.
Non, fertig, c'est. Je suis perdu.
Je suis prêt. Fertig. Bon, bref, on s'en fout.
Non. Ich bin fertig, c'est. Il y a deux choses. Ich habe fertig ou ich bin fertig. C'est je suis fini ou j'ai fini.
Ah voilà, c'est parce que j'ai fertig, c'est fini.
Je fais allemand pourtant.
Ah ouais.
Les drôles de dames, vos 3 points en 15 secondes, s'il vous plaît, je commence avec toi, Julien.
On va revenir bien sûr sur le derby de tous les derbies, Liverpool-Manchester United hier et la claque 3-0 des Reds à Old Trafford. On va parler d'Everton un petit peu parce que il n'y a pas que la mauvaise nouvelle de l'arrivée de John Textor. Du côté d'Everton, ils ont aussi complètement capitulé lors de la rencontre contre Bournemouth ce week-end. Et puis on aura une minute bien sûr sur l'ami de Polo, sur le cyborg norvégien. Qui d'autre? Encore un nouveau triplé, back-to-back triplé maintenant pour Erling Haaland.
On fait des débats? Pour voir si c'est un bon attaquant.
Oui, bah si tu veux, je te rappellerai un petit peu ce qu'ont dit Carragher et Roy Keane pour nous faire rire un petit peu, mon Polo.
Johan,
on va s'intéresser aux deux clubs milanais, l'Inter pour qui tout va bien, qui risque de rouler sur le championnat, en se demandant si d'ailleurs c'est pas l'Inter qui peut perdre le championnat et pas forcément les autres, vraiment le concurrencer. De l'autre côté de Milan, c'est plus compliqué, du côté de l'AC Milan, c'est. Un début de saison très riche émotionnellement et pas forcément des très très bonnes émotions, en tout cas pas des émotions très positives. Et puis on évoquera évidemment une petite réflexion autour du mercato et du début de championnat alors que le mercato est ouvert.
Fred,
je vous promets que je ne vais pas vous gaver
avec Mbappé tous les lundis. Mais ce soir, on est obligé quand même de.
Non, c'est la promesse qu'on s'est faite.
Voilà,
non.
Mais là, il a marqué. Il a marqué deux. Donc, bien entendu, on va parler de ce doublé d'Mbappé et surtout de la relation avec Vinicius. On va parler aussi du bon démarrage du Barça, hein, puisque le Barça fait carton plein pour l'instant, avec beaucoup d'Espagnols dans cette équipe et une verticalité qui n'est quand même pas le style du Barça, mais qui apporte beaucoup, beaucoup de bonnes solutions à cette équipe. Et puis, bien entendu, on va parler d'un papa qui fait débuter son petit. C'est pas le premier qu'on voit.
Un de ses petits encore.
Un de ses petits.
Il y en a plusieurs partout.
Il y en a trois. Il y a trois petits, mais là, et ça montre l'attachement de ce monsieur avec son club. Polo.
On va aller faire un petit tour dans la surprise de ce début de championnat dans le Bade-Württemberg, la petite ville d'Heidenheim qui est actuellement, je vais y arriver, en tête de la Bundesliga, qualifiée pour l'Europa Conference League et 5-5 depuis le début de la saison. Évidemment, retour sur le top spiel de samedi formidable entre Leverkusen et Leipzig et la défaite du champion en titre, la première depuis quasiment un an. C'est assez extraordinaire ce qui vient de se passer. Et on fera une petite minute en forme d'hommage, mais pas pour quelqu'un qui est décédé, mais pour quelqu'un qui continue une formidable carrière.
Très beau teasing. 21h45, vous le savez, ce rendez-vous le lundi soir. Le quart d'heure des auditeurs, vous appelez le 32-16, vous posez vos questions à Fred, Polo, Julien et Johan avant de passer la main à 22h à l'after. Gilberto et ses frères aussi d'ailleurs. Bonsoir Gilbert.
Est-ce que tu as vu qu'il y a un jeune joueur mexicain qui s'appelle Gilberto, qui est une future grande star du football?
Ah bon?
Ah oui, il y a des Gilberto de 15 ans.
On t'a prévenu?
On a bien repéré. C'est un prénom assez courant.
Ouais, j'ai peut-être
c'est un hommage au Brésil.
Brésil.
Oui, c'est un hommage, comme Jires Kembo,
ouais,
Gilberto, c'est possible.
Je l'ai pris comme ça, à vrai dire.
Peut-être que son père écoute l'after.
Bon, alors,
est-ce qu'il est gaucher déjà?
La Ligue 1 à partir de 22h, forcément, c'est comme ça tous les lundis. Daniel veut parler de Marseille, parce que Daniel est impressionné par l'OM.
Ah
ouais, il va nous en parler tout à l'heure. Florent Gautreau veut parler de Rennes. Alors là, il est moins impressionné. Hein. Bien sûr, on se pose déjà la question de savoir si Stéphane va rester. Et puis le reste de l'actu du jour, dominé par les matchs du week-end. L'événement, c'est bien sûr cette troisième journée de Ligue 1. Nice au programme, notamment ce soir. Et puis notre feuilleton de l'élection à la présidence de la Ligue. On a invité tous les candidats. Ce soir, on fera le point sur les plaintes en cours auprès du parquet financier sur la création de la société commerciale de la Ligue. Assez intéressant parce que c'est une petite bombe à retardement qui pourrait exploser à la face du football français. Vous saurez tout à l'heure dans l'after.
L'invitation a été lancée à Vincent Labrune aussi, évidemment.
Il a refusé.
Évidemment.
Bah, s'il veut changer d'avis, il est le bienvenu. Hein.
Gilbert, à 22h pour l'after. Vous nous appelez au 32-16, vous le savez, pour 21h45, vos questions. Et je vous rappelle qu'on est également en direct sur la chaîne YouTube de l'after, @after-foot, pour vous abonner, nous voir, commenter également dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions ici même aussi aux drôles de dames. C'est parti pour les drôles de dames, justement. C'est donc parti, Julien. Il n'y a pas eu de match hier entre Manchester United et Liverpool. Cavalier seul des Reds hier après-midi.
Ouais, même si la première demi-heure, j'ai trouvé où il y avait 0-0, c'était plutôt un match engagé. J'avais l'impression que United était plutôt bien organisé, que même si au départ on pouvait penser que Liverpool était favori parce qu'ils ont bien commencé la saison, ils avaient deux victoires en deux matchs, ce qui n'était pas le cas pour Manchester United. Mais la saison dernière, on avait vu une équipe de United qui était bien moins forte que celle de Liverpool, qui les avait battus en Coupe d'Angleterre. Deux matchs en championnat. Donc, au bout d'une demi-heure, on disait voilà, on a un vrai match, on va voir ce que ça peut donner. Et puis, il y a la première erreur de Casemiro, une passe. Alors, déjà, c'est le mauvais choix de faire cette passe-là à ce moment-là.
Dans un joueur comme ça, c'est dingue.
Ouais, mais alors la deuxième est pire que la deuxième erreur est pire que la première, parce que la deuxième, il reste sur le ballon, il regarde pas autour de lui, tout ça. La première, après, il y a quand même du chemin à faire pour Liverpool, pour Szoboszlai, pour Salah et ensuite pour Diaz, mais jusque là, je trouvais que le match était plutôt équilibré, on va dire, même si Liverpool avait eu un but refusé. Après, c'est vrai que ça se complique. Dès l'ouverture du score de Diaz, il y a une autre erreur de Casemiro tout de suite après. Sanctionné directement par un deuxième but. Encore une fois, Salah pour Luis Diaz. Et puis après, ça s'effondre côté United. Casemiro sort à la mi-temps pour un jeune anglais de 21 ans dont personne n'a entendu parler, je pense, parmi vous les gars, et puis parmi la plupart des auditeurs aussi. La seconde période est pas si mauvaise que ça, notamment du côté de Manchester United. Zorzi a deux énormes occasions qu'il doit marquer. On revient sur le fait qu'on l'a expliqué longuement avec Johan. C'est pas un buteur clinique, c'est pas quelqu'un qui te marquera 35 buts dans une saison. Il a d'autres qualités et ils l'ont recruté pour ses autres qualités, pas simplement pour celle de finisseur, parce que c'est pas un grand finisseur. Et là, il aurait dû marquer au moins une des deux occasions, la première, peut-être plus que la deuxième encore. Mais voilà, donc ça peut tourner différemment pour Manchester United, mais le fait est que ça ne tourne pas différemment. Donc moi, je veux bien à la fin que Ten Hag essaye de justifier, de contredire un petit peu
qu'est-ce
les remarques
dit,
des journalistes,
les
questions. Il dit que Liverpool a été plus efficace, ce qui est vrai. Si tu regardes les expected goals, finalement, il n'y a pas trop d'écart entre les deux, à cause des deux ou par la faute de deux grosses actions ratées par Xherxy. Mais ça peut très bien finir sur un 2-1, ça peut très bien finir sur un 3-2, ça peut finir sur un 3-3. Voilà, ça aurait pu tourner différemment. Ça, je veux bien le reconnaître. Mais il y a quand même des énormes lacunes dans cette équipe de Manchester United que même lui, dans un sens, se cache la vérité finalement, j'ai l'impression. Et encore une fois, on l'avait dit la semaine dernière, tout n'était pas à jeter contre Brighton malgré la défaite à la dernière minute, parce qu'ils pressaient bien, parce qu'ils ont, ils se sont aussi créés des occasions. Il y a clairement un problème d'efficacité offensive, ça c'est sûr, et défensivement ils sont bien trop souvent à la rue quand même. On l'a vu contre Brighton et on l'a encore vu hier sur les trois buts. À la fin, les joueurs de Liverpool disaient on aurait pu marquer 5 ou 6 buts, ce qui est peut-être un petit peu
exagéré,
un petit peu poussé le bouchon, exagéré. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de la rencontre, au final, tu perds 3-0 à domicile, même si tout n'est pas à jeter à la poubelle. C'est quand même une humiliation contre l'ennemi juré aussitôt dans la saison. Deuxième défaite de suite d'ailleurs, hein, après celle de Brighton. C'est voilà, ça fait quand même un petit peu
terrible.
Tâche.
C'était 14e de première ligue, t'as 3 points sur 9 possibles. Tu te demandes si la saison reprend pas comme elle s'est terminée, Fred.
Mon ami Julien, est-ce que Casemiro va être sanctionné par United, puisqu'il est, il a quitté le stade à la mi-temps?
Alors, Ten Hag dit que non, lui, hein.
Ah bah, on a vu les images.
Ten Hag dit que non.
Ouais. Alors, je sais pas
après,
si
il aurait pu partir et rejoindre une loge. Enfin, je sais pas après s'il a vraiment quitté le stade. Oui, mais peut-être qu'il est allé au parking pour chercher quelque chose. Enfin, je sais pas. Ten Hag dit qu'il était là après. Donc, effectivement, je sais pas. Quelqu'un. T'as raison. Soit c'est les images qui mentent et il a fait autre chose après. Soit c'est Ten Hag qui ment ou qui n'était pas au courant. Je sais pas. Après, pour un joueur comme Casemiro, même s'il a eu une saison compliquée l'année dernière, c'est une humiliation totale.
Ah, totale, bien sûr.
Bah oui, non, c'est pour ça. D'être sorti à la pause comme ça, dans un match pareil, d'être remplacé par Tom Collier, un jeune de 21 ans.
Pour ceux qu'on attend Ugarte avec impatience, hein, quand celui-ci sera prêt, il a été présenté hier. Il n'est pas impossible qu'il prenne la place de Casemiro d'ailleurs.
Oui, mais je pense que c'était ça l'idée. Après, on a posé la question à Ten Hag hier. Il a dit mais moi, je suis pas Harry Potter. Ugarte, il aura besoin de semaines ou de mois pour être prêt.
De mois.
Alors bon, des mois, j'y crois pas. Oui. Mais le problème d'Ugarte, en fait, c'est que depuis le mois de juillet, United le veut. Il l'avait identifié comme le joueur à recruter. Pas de problème. Depuis le mois de juillet, depuis le début, ils savent très bien que le PSG, ce sera 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus. C'était comme ça. C'était ce que le PSG voulait. Le PSG leur a dit dès le premier jour, si vous le voulez, c'est ça qu'il faut poser sur la table. Sinon, vous l'aurez pas. Première offre de United, 35 millions d'euros.
Ah oui,
à un moment, on se moque du monde. À un moment, c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont attendu. Et au final, ils ont déboursé les 50 millions plus 10. Et ils l'ont eu le 30 août. Alors qu'ils auraient pu l'avoir le 15 juillet. Pour la même somme,
ça,
il aurait fait
la estivale à la
exactement.
Reprise.
Exactement.
Comment tu expliques qu'un joueur
vas-y Fred,
non, rapidement. Comment tu expliques qu'un joueur aussi énorme que Casemiro soit devenu
il a 32 ans, il est pas vieux non plus.
Et comment tu expliques cette est-ce que le fait d'avoir quitté le Real, tu te dis allez, maintenant je fais de l'argent inconsciemment, bah ça là,
parce qu'il était pour l'argent. Il était bien mieux entouré au Real aussi, attention.
Parce que là c'est quand même catastrophique
pour l'argent, bien sûr. Les 50 contrats, la revalorisation salariale, etc. Après, je pense que bon, son niveau, lui, personnel a baissé, déjà. Après, je pense qu'on lui demande des choses sur lesquelles il n'est pas confortable. Hier, par exemple, c'est pas Casemiro de relancer le jeu comme il l'a fait. Alors, bien sûr, qu'à ce niveau-là, un joueur aussi. Voilà, exactement. Ah un joueur comme lui doit être capable de faire une meilleure passe sur la première erreur. La deuxième erreur, il est sous pression. Il y a le pressing de Luis Diaz, il perd le ballon. Bon, voilà, c'est son erreur aussi, mais c'est pas sa qualité première non plus de faire ce genre de choses-là. Et je pense qu'il y a aussi un problème structurel autour de lui, c'est-à-dire que jamais il a eu que ce soit en possession ou sans la possession, la bonne structure collective autour de lui, de cette équipe-là. Et on revient aux limites de Ten Hag.
Julien, j'aimerais qu'on parle de Liverpool quand même, parce qu'on a beaucoup de messages, on va en parler.
Bah, j'ai pas le temps.
C'était quoi? Tu veux parler de Liverpool, j'espère, hein?
Non, Manchester.
Mais comment on fait, les amis? Comment on fait? Je reviens, c'est le bordel.
Mais Liverpool, on va en parler.
Vas-y, Polo.
Moi, j'aime bien.
C'est pas un certain Gilbert qui était là la semaine dernière?
Gilberto, tu veux dire.
Vas-y, Polo.
Manchester United, moi, j'aime bien analyser les clubs sur les cycles longs. Et le dernier titre, si je ne me trompe pas, de Manchester, c'est 2013 avec Ferguson. À l'époque, rappelons-le, Manchester United, à part le Barça, était the best of the rest. C'était, ils perdaient les finales de Ligue des Champions, etc. Mais c'était vraiment la deuxième équipe d'Europe d'une façon assez extraordinaire. Entre-temps, on est allé chercher un bâtisseur, Louis van Gaal, ça a pas été un franc succès. On a cherché un mec qui commençait à faire la tournée des popotes, un vieux de la vieille, Mourinho, etc. Ça a pas fonctionné. Mais il a fini deuxième quand même. Il y a eu le no-name Solskjaer qui a fait rigoler tout le monde, mais il a fini de mémoire deuxième aussi une fois en championnat. On s'est moqué de Ralf Rangnick alors que c'était un penseur du foot moderne. Je me rappelle les phrases de Ronaldo, je sais pas qui c'est, etc. Mais voilà. Ensuite, et maintenant, on a théoriquement un entraîneur de l'avenir, Ten Hag, et ce qu'il avait fait évidemment aux Pays-Bas et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le poisson pue toujours par la tête, et c'est qui est responsable de ça. Parce qu'on change les joueurs, chaque année on va changer les joueurs, etc. Mais à la fin, on n'y arrive pas. Donc, est-ce que la Première Ligue a pris trop d'avance, Liverpool justement, Manchester City, etc. et d'autres clubs ont beaucoup, beaucoup mieux travaillé que l'autre, Arsenal évidemment, que Manchester United qui fait un peu... maison de retraite si on veut, ou c'est dans les bureaux, l'architecture, la structure, qu'est-ce qui va pas? Moi, je voudrais comprendre ça.
Non, je pense qu'il y a un problème dans la direction, avec les Glazers déjà, ensuite les personnes qui étaient chargées de diriger ce club au jour le jour, qui étaient des financiers, pas du tout des gens du monde du football, etc. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. C'est un club qui, par exemple, avait là jusqu'à l'arrivée de Sir Jim Ratcliffe et d'Ineos, où ils ont commencé à virer plein de gens, mais c'était un club qui avait 1300 employés. Mais 1300, mais à quel moment? C'est incroyable, quoi.
C'est intéressant. C'est vraiment comparé à ce nombre d'employés par gros club européen, d'ailleurs. 1300 employés.
Bah, ils sont loin devant tout le monde. Un peu moins maintenant, mais ils étaient loin devant tout le monde. Donc, il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Après, ils ont fait beaucoup d'erreurs.
Oui.
Dans leurs investissements, dans l'argent qu'ils ont pu dépenser. Tant que économiquement le club faisait rentrer de l'argent, on l'a souvent raconté dans l'émission, ça allait aux Glazers. Même s'il n'y avait pas de résultats sportifs, tout ce qui les intéressait, c'était que l'argent rentre et qu'ils puissent prendre leur argent, leurs dividendes, etc., etc. Donc à un moment, c'est là aussi où tout a basculé. C'est qu'à un moment, le football n'était plus la priorité. La priorité, c'était l'argent. Et c'est pas comme ça qu'on dirige un
marketing et merchandising,
encore moins l'un des plus
tout à fait grands,
exactement.
Bon, voilà pour United, les amis. On va quand même se donner 3 minutes après la pause pour parler de Liverpool. Je rappelle que Ten Hag est un entraîneur qui est resté par défaut. On est d'accord, Julien, et qu'il a prolongé en plus jusqu'en 2026. Donc tout va bien pour le Néerlandais. Dans un instant, Liverpool au programme, notamment, mais aussi l'Inter est-elle partie pour écraser la Serie A? Johan nous répondra également. À tout de suite sur RMC. C'est les Drôles de Dames.
RMC. 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Johan Crochet, Fred Hermel, Paulo Breitner et Julien Laurent, c'est donc parti pour une saison de drôles de dames. On va se régaler avec les soirées avec des champions et un peu plus encore cette année. On sera ensemble, bien sûr, ça ne s'arrêtera jamais, même à Noël. Messieurs, Julien, je reste avec toi parce que je voulais quand même qu'on parle de Liverpool. Mon carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Ouais. Arne Slot, on va attendre tranquillement pour l'instant. On s'est inquiété pour lui. Succéder à Jürgen Klopp, c'est pas une mince affaire. Pour l'instant, tout roule. Il y a la forme et il y a le fond également. Comment tu juges l'évolution de cette équipe déjà après 2 semaines et demie, 3 semaines de compétition?
Moi, elle m'impressionne quand même. Alors, je sais que tout n'a pas été parfait encore hier. On l'a dit, il y a deux grosses occasions pour United en seconde période pour Xerxy. On avait vu la première période contre Ipswich lors de la première journée de championnat où ils se font bouger dans les duels et ils changent à la mi-temps. Il fait entrer Konaté à la pause. Il fait entrer Konaté à la place de Kwanzaa en défense centrale, par exemple. Et la seconde période est bien meilleure et ils finissent par s'imposer assez tranquillement. Je dirais le second match contre Brentford, c'est plutôt à domicile, c'est plutôt tranquille. Et marque tôt avec Diaz. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'on a beaucoup encore la recette du succès de Jürgen Klopp derrière. Donc, la verticalité, ces transitions offensives dont on a vu hier à Old Trafford, par exemple, à quel point ils sont tellement efficaces dessus, où ça va tellement vite vers l'avant. Et puis, il y a cette recherche du contrôle et de la possession qui parfois n'était pas là sous Klopp, où c'était un petit peu quand même, comme il le disait lui-même, du football heavy metal, où ça allait à 2000 à l'heure, mais t'avais pas ce moment où tu contrôlais un petit peu et le tempo et la rencontre. Et là, c'est cette recherche-là que tu sens vraiment dans cette nouvelle équipe de Liverpool. On voit un double pivot, McAllister, Gravenberch, qui, à ce niveau-là, l'évolution de Gravenberch en ce moment est vraiment, vraiment intéressante, parce qu'hier, je l'ai trouvé très, très bon. Je sais que Yo le voit jouer depuis très longtemps.
Justement, je voulais t'en parler parce que, tu vois, depuis qu'il est parti de l'Ajax, on l'avait perdu un peu de vue et, ouais, et ça n'a pas marché pour
on
lui.
On l'a pas du tout court, hein, Bayern.
Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est un joueur, c'est pas un mec, c'est pas le plus talentueux du centre de formation de l'Ajax, mais c'est un mec très polyvalent, très utile, qui est effectivement ce côté contrôle, parce que techniquement, il est habile et qu'il voit bien les lignes de passe et il sent bien le jeu. Mais il a aussi ce côté projection avec et sans ballon, et je trouvais que le football allemand lui correspondait bien, le football anglais aussi, et je suis content de le revoir à un niveau intéressant parce qu'il va avoir un rôle très important, parce qu'il n'y a pas 50 000 joueurs avec avec cette faculté à jouer devant la défense ou à un poste un peu plus reculé par rapport à un milieu à ses côtés.
Autre joueur au niveau très intéressant, Julien, c'est bon, Mo Salah, bien sûr. Il y a plein de questions sur le chat. Faut parler de Mo Salah. Est-ce qu'il va rester? Sa dernière année de contrat, je le rappelle, il est revenu avec une coiffure aérodynamique, toujours aussi efficace, buteur, double passeur. Il le dit, il veut remettre Liverpool tout en haut, hein, après la saison dernière, offrir un titre de champion avant d'éventuellement partir. Qu'est-ce qu'on dit en Angleterre? Lui reste toujours très discret sur son avenir, mais ça semble indiquer que c'est sa dernière saison.
Il a pas été très discret sur son avenir, mais c'est quand même qui choisit ses mots toujours, hein, qui est tellement intelligent, qui sait très bien que tout ce qu'il va dire va avoir une portée assez assez énorme. Et là, il a tout à fait raison. Et hier, il dit c'est ma dernière saison ici, ce qui factuellement est vrai puisqu'il lui reste qu'un an de contrat et que pour l'instant, comme il l'a aussi expliqué hier, personne du côté du club n'est venu lui parler à lui ou à son agent d'une potentielle prolongation de contrat. Donc pour l'instant, c'est les faits, il lui reste un an de contrat, c'est donc techniquement sa dernière saison. Donc il veut vraiment profiter. Il a 32 ans, Mo Salah, il gagne 500 000 euros par semaine. À un moment, aussi fort qu'il soit actuellement, hein, et qu'il a été sur les, on va dire, les 10 dernières années, pour faire gros, à un moment, à 32 ans, 500 000 euros par semaine, c'est, je pense que pour un club comme Liverpool, même un club comme Liverpool, c'est plus possible. Donc s'ils veulent continuer ensemble... S'ils veulent continuer ensemble, c'est à mon avis, hein, il faudra qu'il accepte une baisse de salaire. Mais je pense que il le sait lui-même. Il sait très bien qu'à cet âge-là, et souvent les gros clubs n'offrent d'ailleurs que une année supplémentaire. Donc il sait qu'il n'y aura pas une prolongation de 5 ans de contrat avec les mêmes termes qu'il a actuellement. Je pense que ça, il le sait. Après, ça dépendra lui aussi. Ça dépendra donc de Liverpool s'ils veulent bien le garder, s'ils sont prêts à lui proposer, par exemple, de baisser son salaire de moitié, on va dire, ce qui restera encore énorme quand même, même à l'échelle européenne, l'échelle mondiale, pour un an, voire un an plus un an, et si lui, ça lui plairait, mais dans la forme, c'est là le problème. Je pense que, en fait, s'il était moins bon et qu'il était vraiment sur la phase descendante, on pourrait dire, bon, bah voilà, maintenant, c'est la fin, il peut aller ailleurs, dans un autre championnat, je sais pas, moi, en MLS, en Arabie Saoudite, où il veut, retourner, en Égypte, s'il veut, faire ce qu'il veut, peu importe. Mais le problème, c'est qu'il est tellement fort, encore aujourd'hui, et là,
il porte
à 32 ans.
Encore incroyable. Aussi, c'est un homme qui bosse énormément sur son hygiène de vie, une discipline physique incroyable. Bon, on en reparlera bien sûr, ce sera un des feuilletons de la saison à venir, hein, chaque déclaration.
Comme d'ailleurs, Trent Alexander-Arnold et Virgil van Dijk qui aussi n'ont plus qu'un an de contrat. Donc c'est pas que Mo Salah, hein, c'est trois gros joueurs sur lesquels
Et van Dijk qui n'est pas hyper clair non plus, hein, sur le sujet.
Bon, l'Italie. Ouais. L'Inter est-elle partie pour se balader en Serie A? Joanne, la question se pose après la victoire du champion en titre 4-0 sur l'Atalanta. Récital, quelle est ta réponse?
Oui, bah c'est le sentiment qu'on a un peu tous en Italie. Moi, j'ai le même sentiment. Évidemment, il y a une force du côté de l'Inter qui se dégage. Force, évidemment, individuelle, parce qu'il y a quand même des très bons joueurs, mais force surtout collective qui, année après année, s'enrichit de quelques petits éléments pour compléter un petit peu l'effectif, mais qui ne bouge pas tant que ça, l'effectif. C'est ça aussi la force, c'est qu'en début de saison, là, si vous prenez le top 10 de l'année dernière, il y a 8 clubs qui ont changé d'entraîneur. Et je parle que des entraîneurs. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont bougé. Vous prenez la Juve, il y a une moitié d'équipe qui a changé. Vous prenez la Roma, il y a une moitié d'équipe qui a changé. Vous prenez Milan, il y a une moitié d'équipe qui a changé. Donc eux, ils ont forcément ce temps d'avance-là en début de saison. Donc c'est ce qui rajoute ce côté impressionnant de machine. Parce que pendant qu'il y en a qui sont en train de chercher un petit peu les mises à jour, le nouveau fonctionnement avec leur coach et l'intégration évidemment des nouveaux joueurs, t'as déjà une machine qui est toute prête, qui peut démarrer, et qui fait le 0 à 100 en 2 secondes. Et tu sais très bien que eux, ils vont prendre de l'avance parce que c'est le même système, le même entraîneur, la même, grosso modo, équipe, le même équilibre d'équipe. Même si moi, je pense que quand on voit le début de saison de Mkhitaryan, il commence à faire son âge, et que le recrutement de Zielinski, ça peut être aussi un facteur qui peut pousser un peu Mkhitaryan sur le banc. Mais moi, ce que j'ai vu lors des 25 premières minutes contre l'Atalanta, c'est une répétition de très grandes prestations européennes, tout simplement. C'est l'Atalanta, tu sais quand tu vas la jouer que tu vas galérer parce que sur les duels c'est très fort, parce qu'ils te rentrent dedans, parce qu'ils viennent te presser, parce qu'ils font une individuelle, pas sur tout le terrain, mais très très préparé, très travaillé.
malgré ça, ils les ont détruits. Mais c'est vraiment ça, quoi. L'Atalanta n'avait aucune réponse possible. Alors évidemment, on peut toujours dire que l'Atalanta, il y a plein de nouveaux joueurs, il y avait des absents, que évidemment, on peut toujours trouver quelque chose qui va atténuer un petit peu la performance. Mais moi, ce que je vois pendant 25 minutes contre l'Atalanta, je me dis, s'ils sont capables de faire ça pendant 25 minutes, de mettre deux buts à tout le monde et ensuite de gérer plus ou moins leur match, gérer évidemment les dépenses énergétiques aussi, parce que la saison va être très longue, et en plus de réussir à intégrer Taremi, intégrer Zielinski, qui sont les deux seules vraies grosses arrivées, hormis quelques petits ajustements, c'est vraiment trop fort aujourd'hui.
Et avec Marcus Thuram encore brillant, qui met un doublé, 4 buts en 3 matchs, meilleur buteur de Serie A. Comment tu l'expliques ? Il y a une évolution ? Quelque chose ?
Non, il brille un peu plus parce que Lautaro brille moins. Lautaro, il a eu une saison très très longue, hein. Il fait la Copa América, il a été décisif pour l'Argentine. Là, on sent qu'il est revenu plus tôt que prévu. Il avait des vacances qu'il n'a même pas prises pour revenir plus tôt à l'Inter, parce que l'Inter avait une situation un peu particulière. Taremi venait de se blesser, donc ils avaient besoin aussi d'un attaquant, enfin que Lautaro revienne. Ils lui ont proposé, il est revenu. Mais on sent, moi je le sens un peu déjà limite émoussé en début de saison. Donc il va falloir surveiller un peu aussi Lautaro. Il fait sans doute moins d'efforts aussi, moins de courses, moins de prise d'espace et moins de mouvements que Thuram, qui lui a beaucoup plus ce dynamisme-là, et on voit il a un jeu incroyable sur ce début de saison. Donc pour le moment, l'Inter a toutes les raisons de capitaliser sur Marcus Thuram, comme ils ont fait la saison dernière en tout début de saison avec Lautaro, qui lui enchaînait les buts, enchaînait. On verra si ça sera le rôle de Thuram. Pour moi, son rôle n'a pas fondamentalement changé. Peut-être que Lautaro étant moins prêt physiquement, tout ce qui est recherche de profondeur sera plus géré par Thuram, et donc il sera plus à même d'être proche du but et donc de tenter sa chance, d'avoir des tirs, des bonnes positions de frappe et des positions, pourquoi pas, d'occasion, voire de but. Mais il est surtout, moi je le trouve totalement épanoui. En fait, vous voyez ces matchs, vous voyez quelqu'un heureux d'être là, vraiment, et quelqu'un qui est léger sur le terrain. Tu vois, on sent pas quelqu'un qui est dans le doute, qui réfléchit, qui...
Emprunté.
On sent que ça vient très naturellement, que tout ce qu'il fait est léger sur le terrain. Et vraiment, il est au-dessus, mais c'est pas que lui. Vous regardez le match de Barella, vous regardez le match de la défense, vous avez des joueurs... Voilà, bon. Vous prenez encore Bastoni sur les 25 premières minutes, il est défenseur central axe gauche, défenseur central sur certaines phases de jeu au centre, donc dans la défense à 3, il est arrière gauche, milieu gauche, ailier gauche. Voilà, c'est le récital du jeu d'Inzaghi.
Maturité, beaucoup disent maintenant les attend en Ligue des Champions, surtout l'Inter.
Oui, parce que l'année dernière, il faut pas oublier que le titre, c'était très bien, la 20e étoile, mais la Ligue des Champions, ça a été une énorme déception.
Surtout après la finale de la saison d'avant. Voilà pour l'Inter. On parlera d'Osimhen aussi, hein, beaucoup de remarques concernant l'avenir d'Osimhen, qui devrait s'engager à Galatasaray. Quel coup de son ambition.
Vous passez en un an des offres à 150 millions d'euros des meilleurs clubs européens à un prêt, étant obligé de reprolonger ton contrat à Naples, parce que sinon il partait pas en prêt, jusqu'en 2027. Et il est fini au championnat turc.
On va en parler. On va en parler bien sûr ensemble tout à l'heure, mais on parlera aussi dans un instant d'Edenheim, le tube de l'été, peut-être en Allemagne. On en parle avec Polo et le doublé de Mbappé dans style son histoire madrilène avec Fred. Reste avec nous, les drôles de dames sur RMC. Il est 20h32. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les quatre drôles de dames, Fred, Polo, Julien et Johan, on est ensemble jusqu'à 22h, 21h45. Sans rendez-vous, appelez-nous aux questions aux quatre drôles de dames au 32-16. On vous écoutera 21h45. L'Allemagne, Polo, t'as une belle histoire en ce début de saison. Elle se passe dans le Bade-Württemberg, tu l'as dit tout à l'heure, Heidenheim. On en a parlé déjà la saison dernière, qui s'est brillamment qualifié pour la Ligue Europa Conférence. Pour les barrages, avant de les passer brillamment cet été, ville de 50 000 habitants, leader actuel du Bundesliga à la faveur de sa victoire sur Augsbourg, 4-0. C'est forcément une surprise.
C'est forcément une surprise, mais c'est aussi applaudi par une frange très importante du football allemand qui aime la stabilité et qui aime les clubs qui travaillent sur le long terme. C'est-à-dire qu'on est, faut rappeler ça tout le temps, l'Allemagne, la Bundesliga, la Zweite Liga, est à 90% un contre-modèle de ce qui se passe dans le monde européen, avec des grosses fortunes qui débarquent comme ça et qui partent aussi vite qu'ils sont arrivés. On vient de parler de Manchester United. Le football allemand, sauf exception, ne fonctionne pas comme ça. Donc, si tu veux, nous sommes encore dans un système associatif, avec un club, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est dimensionné pour la deuxième division. Il y a encore un peu plus de 10 ans, il était en 3 troisième division et il monte petit à petit. Et c'est là où tu vois qu'on travaille sur le long terme, un petit peu comme un artisan, où chaque année on apporte une petite amélioration qui fait que on a un coach, Frank Schmidt, qui est là depuis 17 ans, qui a connu les divisions amateurs. On en a parlé, hein, il a son problème physique, etc., avec sa colonne vertébrale. Faut pas lui en parler, etc., parce que c'est compliqué. C'est, je veux dire, c'est pas José Mourinho qui fait la star des conférences de presse. On est encore là aussi dans un anti-modèle au niveau du marketing et tout ça. Ce qui est extraordinaire avec Heidenheim, c'est que l'année dernière, j'étais persuadé qu'ils allaient se maintenir en Bundesliga. C'est le modèle, ce que moi j'appelle les clubs socialisants en Allemagne. Ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a pas une tête qui dépasse des autres. C'est-à-dire que l'équipe, j'entends beaucoup l'identité, les clubs, l'institution doit être ceci. Et ben, Heidenheim, on ne parle pas des joueurs, on parle évidemment d'une équipe qui travaille ensemble. L'année dernière, aucun recrutement de niveau Bundesliga. Le seul qui a percé, c'est Dinchy, qui était prêté par Brême à Heidenheim. Ils sont allés chercher un peu miraculeusement cette huitième place et se sont qualifiés en barrage pour l'Europa Conference League. J'ai vu les deux matchs, c'était pas extraordinaire, mais bon, ils sont passés. Ce qui est intéressant, c'est que là, tu te rends compte, et puis ce qui est terrible, c'est que cet été, comme des joueurs ont percé l'année dernière, malgré le collectif, tu as Beste qui se retrouve à Benfica, tu as Kleindienst, l'attaquant qui fait presque 2 mètres, qui se retrouve à Mönchengladbach. Ils ont perdu toute leur attaque devant et tu te dis, mais comment on fait? Puisqu'on gagne en plus d'argent aujourd'hui par rapport à ma dimension, comment est-ce que je vais faire pour améliorer mon équipe? Et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des joueurs de deuxième, voire de troisième division avec le Brésilien Cienza. Cienza, ça a l'air de rien comme ça, je l'ai vu jouer. Hein. C'est le mec qui t'énerve toute la pendant 90 minutes. C'est un footballeur de rue. Donc il va te marquer un but extraordinaire, tu vas pas comprendre comme ça. C'est un peu le copier-coller de ceux qui connaissent Yann Niklas Beste aujourd'hui à Benfica. J'ai vu qu'à Benfica ils le font jouer au poste d'arrière gauche, j'ai pas bien compris, normalement c'est un ailier, mais c'est des choses comme ça qui se passent. Et tout a fonctionné de la plus belle des façons, puisque je dis toujours ça, l'évolution, non pas tactique, mais de la confiance du club. Première journée, duel, j'ai presque envie de dire, de club de seconde division en Bundesliga, Sampaoli le promu qui rencontre Heidenheim. La circulation de balle d'Heidenheim, défensivement, tu vois les progrès qu'ils ont fait pendant un an. C'est extraordinaire. T'en as un qui est en phase d'apprentissage, qui se prend deux comptes pendant la rencontre. Boum, Heidenheim, les 3 points. Et là, t'as Heidenheim qui est qualifié pour l'Europa League, comme dit le président. Ça nous fait 4-5 millions de plus. C'est bien, on va peut-être pouvoir essayer d'aller chercher quelqu'un à 2-3 millions. Hop, boum, ils éclatent complètement Augsbourg. Et je trouve ça extraordinaire. D'autant plus que quand je parle du modèle allemand, qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre 2023? On est dans un petit stade, 15 000 places qui évidemment est rempli tous les 15 jours. Bah là, ils ont décidé d'étudier le projet de monter à 25 000 places. 25 000 places en Allemagne, c'est encore un club de seconde division. Mais c'est là où on voit, quand je dis que le football allemand, il vit. C'est que vous avez chaque année des clubs comme ça qui sont en train d'augmenter leur capacité et ça se passe par de l'économie, j'ai envie de dire, plus réelle et non pas par un mec qui débarque, tiens, je te file 100 millions et tu te rends... Ce qui s'est passé au Hertha Berlin, je vous rappelle, un jour, peut-être, on aura le temps de voir ce qui s'est passé vraiment là-bas. Et ou de partir, on voit le foot français dans quel état il est aujourd'hui, mais de construire petit à petit comme un artisan. Et je trouve ça extraordinaire.
Quelle belle institution. Vas-y.
Un seul prêt.
Oui, on va en parler.
Petit Paul.
Paul Banner, prêté par le Bayern,
18 ans. Ouais. Et qui énerve déjà Frank Schmidt. Parce que c'est la superstar. Les mecs ont 30 ans autour de lui, t'as l'impression qu'ils savent pas jouer au football, évidemment, par rapport à lui.
Non, mais c'est aussi un gamin qui avait fait parler en Allemagne, qui avait démarré à 16 ans. C'était le plus jeune depuis Mokoko au Borussia.
Exactement. Voilà. Sauf que le mec, que dit Frank Schmidt? En conférence de presse et aux journalistes, me posez pas de questions par rapport à Paul Banner. Mon modèle, vous savez, à Hoffenheim, vous savez très bien ce que c'est l'équipe, ce n'est pas le joueur. Maintenant, encore une fois, je me mets à la place de trentenaires qui ont fait leur carrière à Heidenheim et qui voient un petit prodige comme Paul Banner qui débarque. Ça doit quand même faire bizarre et tu dis, mon plan de retraite, est-ce qu'il est bien fait? Donc voilà, j'adore ce club.
Yohann voulait poser une question.
Ouais, Paulo, parce que je disais pas vu jouer la saison dernière à Heidenheim et contre Eken en Coupe d'Europe, j'ai trouvé ça c'était dur pour eux, le match aller, ils doivent le perdre 4-0 quasiment. C'est il y a beaucoup d'occasions pour Eken, ils ont le ballon la plupart du temps et tu vois, j'ai pas vu le match retour et je regardais les deux premières journées et ils ont très peu le ballon. Oui. Heidenheim, ce qui peut se comprendre par plein de choses, hein. Mais tu nous expliques un peu comment ça jouait et est-ce que, alors, tu sais, moi ça, j'ai fait le parallèle qui est qui a peut-être pas lieu à d'ailleurs, mais avec le style de jeu de l'Union Berlin, qui avait très peu le ballon, qui était très dynamique, qui courait beaucoup. Et est-ce que ça ressemble à l'Union Berlin, parce que moi je les ai pas assez vus jouer pour pouvoir l'expliquer. Et est-ce que ça peut devenir un autre modèle? On sait que les Allemands avaient construit quelque chose dans la proposition de jeu, dans le fait d'être protagoniste, de vouloir le ballon pendant des années. D'ailleurs, ce qui faisait plaisir à beaucoup en Europe. Est-ce que les petits clubs peuvent avoir un autre modèle pour contrer justement cette
Au niveau de la comparaison avec Union est intéressante, mais justement, je pense que c'est un contre-modèle par rapport à l'Union, parce que qu'a fait Union lorsqu'ils sont montés en première division, tout l'argent qu'ils gagnaient, ils l'ont remis dans l'équipe avec des joueurs de niveau Bundesliga. Là, ils ne le font pas à Heidenheim. Heidenheim, donc ça, c'est très différent. C'est-à-dire que les joueurs, quand ils vont chercher Conte, qui est un coureur de 100 mètres, ils débarquent de Paderborn, seconde division, mais ils s'adaptent. Et alors, t'as raison, le contre-enquête, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand ils récupèrent le ballon, il faut que l'équipe en face et Haken s'est fait avoir d'une façon naïve à l'aller. Il ne faut pas oublier, quand tu dis que c'est 4-0, c'est qu'on jouait sur surface synthétique, ce qui est dramatique. Hein, mais bon, c'est très spécial, hein, le match aller. Mais, et c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de chance. Le 2-1 à l'aller est très chanceux. Mais même au retour, ils sont menés 2-1 à domicile parce qu'ils n'ont pas cette expérience. Alors qu'à Haken, même si ce n'est pas une équipe extraordinaire, chaque saison, je parle sous ton contrôle, ils vont chercher des qualifications européennes où ils se battent pour ceci et pour cela. Ils sortent toujours des petits jeunes de 18-19 ans qui viennent d'Afrique où on sait pas où le circuit nordique fait que ça fonctionne, et on se retrouve avec un schéma de jeu chez Schmidt qui est en général un 4-2-3-1 avec un meneur de jeu, mais tu le vois parfois jouer avec deux attaquants, un 4-4-2 à l'ancienne. Mais ce qui est intéressant dans les attaquants, c'est que ces deux joueurs d'1m90, donc attention aux coups de pied arrêtés. Là encore, je parle à Sienza, Paul Vanner, c'est à eux qui jouent techniquement comme ça. Et donc, si tu les laisses, et ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas quelqu'un qui blinde. Tu regardes les nombres de matchs où il remporte 3-2, 3-3, etc. C'est que ça joue aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et Schmidt parle toujours de, il a un mot qui est très important, c'est l'Einstellung. C'est l'état d'esprit, en fait, quand tu rencontres. Il n'accepte pas de se faire éliminer aujourd'hui par une équipe de deuxième ou troisième division en Coupe d'Allemagne. Parce qu'il dit, quand on doit être à notre niveau. Et c'est l'état d'esprit qu'on met sur le terrain.
Et c'est le même qu'il a imprimé dans ce club depuis son arrivée en septembre 2007. Franck Schmidt, personnage incroyable, sûrement le doyen des entraîneurs des quatre grands championnats européens, 17 ans à Heidenheim. Voilà, Paul, on va suivre ça. Je rappelle, après la trêve, déplacement sur la pelouse du Borussia. Ça va être intéressant. Heidenheim, ce sera le 13 septembre prochain. Avant de parler du Real, de Brahim Diaz, beaucoup veulent parler de Brahim Diaz, hein, mon cher Fredo aussi. Hein.
Ah, ben on peut.
On va en parler. Ah, de Mbappé aussi, pas que du Real en général.
Il y a tellement de trucs à dire.
D'abord, la première minute de la soirée, elle est pour Julien, direction l'Angleterre.
On était obligé, hein, cette semaine, forcément, de choisir Oasis. Nico, j'espère que t'as des places.
Mais c'est injouable, garçon, il fallait faire 8 heures d'attente sur le net.
Et encore, même 8 heures. Bon, moi, j'ai un peu de connaissance. Non, mais... quelques coups de fil et puis ça devrait pouvoir se régler.
Je pense qu'il nous faudrait 10 000 faire un débat sur Oasis avec Paulo Breitner, à mon avis Paulo Breitner et Oasis.
Si t'as écouté la semaine dernière, il a beaucoup aimé mon choix musical de la semaine dernière.
D'accord, j'ai pas écouté malheureusement.
Et donc Oasis, forcément, comme tu l'as dit, pour leur retour sur scène en 2025, Oasis aussi pour Manchester City, et donc pour Manchester City, Erling Haaland, un autre triplé du Norvégien à West Ham samedi. Il est donc en back-to-back triplé, hein, deux d'affilée, puisqu'il en avait marqué un le week-end précédent. C'était son 8e en Première Ligue, en 69 matchs de Première Ligue. Pour vous donner un ordre d'idée, pour donner un petit peu à tout le monde un ordre d'idée, Robbie Fowler, par exemple, a plus que lui dans sa carrière, donc 9, en 379 matchs, donc 310 matchs de plus qu'Erling Haaland, pour juste un hat-trick de plus. Sergio Aguero est celui qu'on a marqué le plus en Première Ligue, dans l'histoire de la Première Ligue, 12, en 275 matchs, donc en 206 matchs de plus qu'Erling Haaland. C'est juste incroyable, on n'a jamais vu ça. Alors, avec Polo, on en rigole souvent, et puis je sais que là, on n'a qu'une seule minute, donc on va pas s'étendre sur le sujet non plus. Mais voilà, c'est le moment aussi de rappeler que Roy Keane disait que c'était un joueur de 4ème division, que Jamie Carragher disait que Manchester City était meilleur sans lui qu'avec lui. Donc voilà, on en est, je sais plus le compte, 91 buts en 91 matchs, je crois, incroyable. De Première Ligue maintenant pour Erling Haaland.
Darwin Núñez, t'as combien de triplés en Première Ligue, pour savoir?
C'est une bonne question. Un ou deux, je crois.
Quand même.
Thierry Henry avec 8. Donc il a égalé Thierry Henry, mais qu'il avait fait en 258 matchs, en 200 matchs de plus.
Il va tuer le jeu, comme on dit désormais en français. Reste avec nous dans un instant.
Ah bah oui,
le,
on doit dire ça.
Le Real Madrid.
C'est déjà fait, hein.
Le Real Madrid, il a déjà tué, ouais. Avec Fred, bien sûr. Notamment, on parlera aussi tout à l'heure du Bayer Leverkusen. On va parler d'Osimhen. Alors, tout le monde s'excite sur le cas Osimhen, hein. Tout le monde dit, mais il est en train de flinguer sa carrière. Respectons quand même un peu le championnat turc, hein. Donc, qui plus qu'il était. On en parle dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Johan, Fred, Polo et Julien. Qu'est-ce que j'ai pas dit sur le championnat turc ? On va en parler dans un instant de Victor Osimhen. D'abord le Real. Fredo Bappé s'est délesté d'un poids énorme, déjà. Il a presque reconnu également. Il a enfin marqué un doublé, dont un penalty. On l'a senti soulagé quand même.
Oui, alors, c'est évidemment l'information de ce week-end au Real. Parce qu'il y avait beaucoup d'attentes, parce que le Real a encore eu du mal, hein. Ça joue pas très bien, hein. Encore eu du mal face au Betis. Et que non seulement c'est la libération d'Mbappé, mais c'est aussi la libération pour le Real d'un match qui semblait pas si bien engagé que ça. Donc, parce que c'est en deuxième période. Il y a plusieurs leçons à tirer de ces deux buts. Premièrement, c'est le but en lui-même. C'est un but de numéro 9. Il est dans une position numéro 9, il a un réflexe de numéro 9. Enfin, on va souligner quand même.
Bah oui.
Ce qu'a fait Valverde. Non, déjà Brahim, parce que nos auditeurs, ils ont raison. Brahim, qui est vraiment ce qu'on appelle en Espagne el revulsivo, c'est-à-dire le joker. Revulsivo, c'est celui qui fait changer les choses.
Ouais, qui secoue un peu tout ça quand il entre en jeu.
Qui secoue le cocotier, comme on dit, pour, voilà. Son entrée est décisive. Il est au début de l'action. La talonnade de Federico Valverde est sublime. Mais là aussi, Mbappé, il réagit tout de suite. Il réagit tout de suite comme un numéro 9. Là, c'est un vrai réflexe numéro 9. Donc ça, c'est un but très beau, souligné, les gens sont contents, etc. Après, il y a le pénalty. Pénalty créé, même bien cherché par Vinicius, même s'il est légal, il est bien cherché par Vinicius. On sent que la logique aurait pu vous dire, voilà, le pénalty, Vinicius va le tirer. Et là, non, Vinicius prend le ballon et lui dit, c'est à toi. C'est à toi, Kylian. Et Vinicius regarde le public et demande au public d'applaudir, de soutenir Mbappé. Ancelotti avait expliqué la veille que contrairement à la saison dernière, il n'y avait pas de hiérarchie dans les tireurs. C'est pas lui qui décidait, que les joueurs se débrouillaient. Bon, on a compris a priori que ce serait un coup Vinicius, un coup Mbappé.
Oui, en temps cordial, quoi.
Ils se sont en temps cordial, ils se partagent. Mais le geste, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est parce que c'était Vinicius qui avait vraiment provoqué le penalty et que Vinicius n'avait pas marqué. Et Vinicius ne marque pas beaucoup cette saison. Donc, voilà. C'est comme si Vinicius expliquait que, par son geste, qu'Mbappé avait plus besoin que lui-même de ce but. Et donc, voilà.
C'est tacite, hein, parce qu'il y a comment des hésitations. Mbappé a pris le ballon rapidement.
Voilà,
il s'est mis d'accord sûrement avant.
Oui, voilà, avant, mais en
précédent.
Après, il lui dit c'est à toi. Même, parce que là, à partir du moment où j'insiste que c'est Vinicius qui avait provoqué, voilà, on peut dire, voilà. Non, ça a été très clair. Brahim a été très bien aussi, hein, avec le public, etc. On sent qu'il y a une vérité, une véritable envie que ça se passe bien avec Mbappé. Ouais, les joueurs, franchement, on est dans le foot depuis longtemps, on connaît tous les joueurs. Oui, il y a des joueurs égoïstes, etc. Mais enfin, Vinicius et les autres, ils veulent qu'Mbappé soit utile. Ils veulent gagner des titres. Ils sont là pour gagner des titres. Ils préfèrent avoir Mbappé va jouer de toute façon. Donc, et Vinicius n'est pas menacé par Mbappé. Donc, ils ont envie qu'Mbappé réussisse parce que ça, c'est bon pour eux aussi.
Et Vinicius, ça l'arrange si Mbappé réussit en neuf, hein. Comme ça, il va garder son côté.
En plus, bien sûr. Donc
voilà. Pas en danger.
Moi, je pense que ça c'est bien. Alors, bien sûr, on en fait beaucoup aujourd'hui sur Mbappé, etc. Mais c'est normal. Mais même dans ses déclarations derrière, on sent qu'Mbappé, dans son attitude et dans son discours, il n'est plus le type qui dirige le club. C'est vraiment, vraiment. Moi, je vais vous le dire, et c'est la chronique que j'ai écrite ce week-end dans As, en Espagne, c'était ça aussi. Moi, je suis pas un grand fan d'Mbappé. C'est-à-dire, je n'ai pas de relation, je vais dire.
T'as pas d'affect, quoi.
Pas d'affect, pas d'émotion pour Mbappé, en dehors du fait que c'est un immense joueur, quoi. Voilà. C'est pas ce que je ressens pour Zidane ou Benzema où j'avais vraiment envie qu'ils réussissent. Non, là, moi j'ai envie qu'ils réussissent parce que c'est bon pour l'équipe de France. Voilà, c'est tout. Mais ce que je trouve dans, est-ce qu'il a changé? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le contexte a changé et toute l'intelligence d'un joueur de foot comme dans toute société, hein, dans toute société humaine, c'est de s'adapter. Et l'adaptabilité d'Mbappé, elle est quand même assez impressionnante. À Paris, on le laissait être le petit chef. Il était le petit chef. À Madrid, il sait très bien qu'il ne sera jamais le petit chef. De toute façon, il n'y a pas de petit chef. Il y a un chef, c'est le président.
Mais qu'est-ce qui fait dire ça concrètement ? Retour dans son quotidien, parce qu'au-delà de l'image d'hier.
Ce qu'on me dit, c'est que le mec, c'est Olomas. Ça, c'est hyper important en Espagne. Olomas. Un parmi les autres.
D'accord.
Un de plus, mais ça veut dire en espagnol, en français, on adapterait par un parmi les autres.
Oui, enfin, j'ai vu après le match, quand même, tout le staff est venu le voir pour le féliciter, le remercier.
Mais parce qu'il
faut quand même le cajoler.
On sait très bien que c'est un joueur extraordinaire et qu'il peut marquer l'époque au Real Madrid. D'ailleurs, de nombreux commentaires en Espagne, parmi les grands commentateurs radio comme Manolo Lama et tout ça, disaient c'est le premier de plusieurs centaines. C'est-à-dire, on attend qu'Mbappé soit pas le meilleur buteur de l'histoire du Real, parce qu'il arrive peut-être un peu tard, mais il va marquer des centaines de buts au Real, parce qu'il va être là longtemps. Donc, c'est ça. Et moi, je trouve que dans son attitude, dans sa manière de parler, dans la communication après en zone mixte, en zone d'interview, comme derrière, en espagnol et en français, dans sa manière de s'exprimer, on sent que, et il le dit lui-même, moi, il y a une sorte d'humilité, feinte, imposée ou réelle, je ne le connais pas.
Est-ce qu'elle est feinte, est-ce qu'elle est réelle?
Je ne le connais pas.
Oui, on verra ça. Mbappé.
Donc moi, je suis obligé d'analyser ce que je vois et ce qu'on me dit, ce que les gens que je connais très bien au sein du club me disent.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout le monde a envie qu'il réussisse. C'est ce qu'on a vu sur le terrain, sur le banc. Ça fait plaisir à tout le monde.
Vinicius,
sur innovation également, la 84e.
Là aussi, Ancelotti, il est pas con. Ancelotti, il sait que Mbappé.
Il lui dit avant, il lui parle sur un
pause. Est-ce qu'il lui dit, je vais te sortir? Oui, il est possible que qu'il lui dise, écoute, tu vas sortir. Il sort à 4 minutes de la fin. Il a son innovation, il marche doucement. Tout le stade est derrière lui. Voilà. Il avait besoin de ça aussi parce que moi, je pense que là, je suis parti en Espagne. Je suis parti jeune. Mbappé, ça reste un garçon de 25 ans quand même. Ouais. C'est vieux dans le football, mais enfin, ça reste un être humain.
Lui parle pas d'âge.
Non, mais ça reste un être humain.
Il avait
25
30 ans à 15 ans, Mbappé.
Il a toujours vécu en France. Là, il vit dans un autre pays. C'est pas rien. On a toujours l'impression que comme ils sont riches, non, c'est pas rien. Et donc, ce qui se passe, arrivant dans le club de ses rêves et d'avoir 80 000 personnes qui hurlent son nom, qui l'applaudissent, ça lui fait du bien, quoi. Donc, moi, je trouve ça très bien. Mais, alors, pour terminer, le meilleur joueur du Real, c'est pas Mbappé, c'est pas Vinicius, c'est Valverde. Oui. Alors, c'est vrai qu'en remplaçant Brahim est super, mais Valverde est en train de prendre une dimension avec
Fred,
le départ
c'est quoi
de
sa vraie place.
Avec le départ de Toni Kroos, qui est exceptionnel. Tu disais, pardon?
C'est moi, je suis un fan absolu de Valverde, mais c'est quoi sa place?
Mais au départ, c'est un milieu défensif. Au départ. Ensuite, il a joué beaucoup à droite, et par moments, il était même ailier droit. D'ailleurs, on se souvient du but marqué par Vinicius en finale Ligue des Champions l'avant-dernière contre Liverpool au Stade de France. C'est encore une attaque côté droit, une cavalcade côté droit de Valverde, et un centre deuxième poteau pour Vinicius. Donc, mais aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment qu'Mbappé, d'ailleurs, il a repris son numéro 8, est aujourd'hui un milieu de terrain vraiment.
Valverde, tu veux dire?
Valverde, je dis Mbappé. Valverde, un milieu de terrain qui va prendre de plus en plus d'importance. C'est un box-to-box, c'est un casseur de ligne. Alors, il n'a pas la qualité de Toni Kroos.
Valverde, Bellingham, et tu mets un 6 derrière, quoi.
Oui, sauf que je pense. Ouais, Tchouaméni, il s'est blessé, là. Bon.
Ouais, il est out pour l'équipe de France.
Mais Tchouaméni fait une bonne deuxième période.
Qu'il remplace.
Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, que Valverde va. En plus, je termine là-dessus. Regardez les matchs de Valverde, regardez son évolution minute après minute, comment Valverde finit toujours mieux les matchs qu'il ne le commence, physiquement.
Camavinga est aussi blessé, il y a un petit problème au milieu de terrain côté Real.
Et Mendy aussi, mais il sera là absent qu'une bonne semaine.
Allez, à deuxième minute de la soirée, on va en Italie, on envoie la musique, Polo.
Oui.
Alors ça vaut tout l'or du monde, hein. Polo qui valide.
Eduardo Ganello Abbronzatissima, qui veut dire très bronzé en quelque sorte. Et très bronzé, on est souvent très bronzé l'été. D'ailleurs, Nico, tu es revenu avec un teint hallé, magnifique, hallé. Avec une très belle barbe aussi. L'air.
Un peu trop longue, ouais.
Évidemment, et c'est la fin du football du mois d'août. Hein, vous savez, ce fameux football du mois d'août. Moi que j'adore parce qu'il y a souvent beaucoup de changements d'entraîneur, donc il y a plein de choses à découvrir, à apprendre au sujet de comment les clubs vont fonctionner, les nouveaux joueurs, comment ils vont s'intégrer, les choses tactiques, il y a plein de choses intéressantes. Mais je conçois que pour un entraîneur, c'est très difficile, notamment de commencer un championnat quand le mercato est encore ouvert. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui se sont exprimés quasiment tous lors des conférences de presse d'avant-match cette semaine. Et vous avez des choses comme Gasperini qui vous explique que lui, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés un petit peu tardivement. Donc les premiers matchs de championnat, pour lui, c'est comme la pré-saison. Ça sert à faire des ajustements et des tests tactiques, ce qui est absolument anormal en soi. Normalement, quand le championnat commence, tu es censé avoir ton équipe et de commencer à travailler ce que tu as travaillé pendant l'été, la pré-saison. Normalement, sert à ça. Là, on a le sentiment vraiment de plus en plus, moi je trouve, que les pré-saisons ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à mettre du carburant et pour le côté physique. Mais entre toutes les tournées partout où c'est essentiellement des jeunes qui jouent, d'ailleurs, à un moment donné, il faudra que les États-Unis s'interrogent un peu, les organisateurs de matchs aux États-Unis, parce que quand vous avez Milan City, où les trois quarts c'est des inconnus et des jeunes joueurs, des U17 ou des U19 qui jouent, quand vous payez très très cher les équipes, je pense que ça grince un peu des dents.
Ils payent, hein, voilà, exactement, ils ont de l'argent.
Les États-Unis,
ils sortent des poches.
Mais ça va commencer, vous savez que avant la fin de la saison, quand la Roma et Milan sont allés en Australie faire un match d'after-saison et non pas de pré-saison, dans le contrat, c'était bien précisé qu'il devait y avoir tant de titulaires de chaque côté. Hein. Et sinon, c'était pas le même montant. Donc peut-être que les États-Unis ne font pas ça. Mais bref, tout ça pour dire que le football du mois d'août, c'est pas là où tu gagnes le championnat. Par contre, c'est là où tu peux commencer à avoir des objectifs qui s'envolent. Mmh. Et après trois journées, puisque là, il y a eu trois journées au mois d'août, en Italie, la Roma et Milan, ils ont 2 points. L'Atalanta, ils ont 3 points. La course à la Ligue des Champions, ces trois derniers exercices, ça s'est joué à 5 ou 6 points. Et bien aujourd'hui, après seulement 3 journées, Milan et la Roma, ils ont déjà 2 points de retard sur la Lazio, 4 sur le Napoli, 5 sur la Juve et sur l'Inter. Donc peut-être que tu gagnes pas des championnats au mois d'août.
Lors de son
football du mois d'août, tu peux commencer à les perdre. Clairement.
Voilà, c'est la minute de Johan. Il reste la minute anglaise et non, la minute espagnole et la minute allemande, bien sûr. Dans la deuxième heure, reste avec nous. On revient dans un instant avec les drôles de dames sur RMC.
RMC.
C'est pour ma première saison dans l'After. J'ai 2 finales anglo-anglaises en Ligue des Champions. J'invite tout le monde au resto, j'invite les auditeurs, j'invite tout le monde.
Je souhaite une seule chose. Soit l'Allemagne va au bout, soit elle se fait sortir avant.
Bonsoir.
Alors Johan, bon, t'as l'habitude maintenant.
Merci François. Et ça fera 12 ans sans match de Coupe du Monde.
Salut Zizou. Merci Zizou.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Julien Laurence, Paulo Breitner, Johan Crochet et Fred Hermel, on est ensemble jusqu'à 22h. 21h45, votre rendez-vous, vous appelez. Le 32-16 est ouvert déjà, vous posez vos questions. Dans 45 minutes, un peu moins, à Fred, Johan, Polo et Julien sur vos championnats. N'hésitez pas à appeler dès maintenant. Je vous rappelle également qu'on est en direct sur YouTube. Polo, on retourne en Allemagne. Top Spiel du week-end. Toutes les belles séries ont une fin, même les plus folles. Celle du Bayer Leverkusen a pris fin après 35 matchs. Ben. 462 jours sans défaite en championnat. Battu par Leipzig, 3-2, après avoir mené pourtant 2-0. Monde à l'envers.
Extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, Tu attends évidemment, bon, pour des raisons marketing, le samedi à 18h30, le Top Spiel, etc. Et tu te dis, bon, ben, vivement que ce soit un Top Spiel, quoi. Parce que souvent, on est déçu par ces fameux grands matchs qu'on nous vend ou qu'on nous survend. Et ce match, il était génial. Parce que Leverkusen est supérieur à Leipzig malgré le résultat final. Mais le Top Spiel, si tu veux, au-delà du plaisir que t'as pendant la rencontre et de voir qu'on se dit, ah mince, Leverkusen a perdu. C'est-à-dire que ça fait quasiment un an, excepté la finale d'Europa League, où je vous bassine, où on nous bassine avec ces fameuses séries, etc., sans regarder forcément ce qui s'est passé sur le terrain. Et donc, t'as beaucoup d'analystes en Allemagne qui sont, on est un peu, à cause de ça, si tu veux, on a du mal à analyser vraiment ce qui se passe. Tout le monde est d'accord en Allemagne pour dire que cette défaite de Leverkusen n'est pas grave. Sauf que, 2-2 en Supercoupe d'Allemagne contre Stuttgart. Leverkusen menait déjà 2-0 à Mönchengladbach avant que Mönchengladbach revienne à 2-2. Mais comme il y avait les fameux arrêts, les arrêts de jeu, et ben Leverkusen marque et ça fait partie en plus du gimmick qu'on nous vend. Et puis là, c'est pas passé. C'est-à-dire que Leverkusen est au-dessus. Alors, il faut voir la première mi-temps, c'est assez extraordinaire la façon dont joue Leverkusen, mène logiquement 2-0, et on se dit, comme on dit en Allemagne, que Leverkusen est le principal successeur à son propre titre. Et ça, et finalement, ça finit pour 3-2 avec, comme un vieux boxeur qui a été dans les cordes pendant 10 rounds, en boxe, Leipzig n'a pas renoncé, alors que je pense que l'effectif est moins bon, notamment à cause du départ d'Olmo, cet été, à Leipzig, et ben, va chercher 3 points au courage, j'ai envie de dire, avec une prestation d'un Openda, qui a des statistiques en Bundesliga assez impressionnantes de 36 matchs et 26 buts. Mais souvent, ces buts sont pas importants.
Alors là, ils sont super importants, là, parce qu'ils permettent d'aller chercher la victoire à Leverkusen. Maintenant, il faut essayer de comprendre. Il y a, la semaine dernière, je disais, ou il y a une dizaine de jours, faut faire attention que Leverkusen ne transforme pas sa nouvelle assurance en suffisance. Parce que le niveau de jeu de Leverkusen aujourd'hui est, est supérieur aux autres équipes de Bundesliga, Bayern y compris, que tu te dis, c'est pas bien grave. Mmh. Mais il faut le corriger, parce qu'il y a quand même des buts qui sont encaissés. Et puis l'année dernière, je vous parlais de du fameux X en attaque, c'est-à-dire que Boniface, oui, Wirtz, monstrueux. Pas encore à 100%, mais techniquement monstrueux. Et cette année, on a été recruté Terrier, notamment. Donc je sais toujours pas si on met Hoffmann, si on met Adli. Terrier, par rapport au niveau moyen de Bundesliga de Leverkusen, il a intérêt à augmenter rapidement son niveau, hein, Terrier, hein, parce que on n'est pas à Rennes, là, hein, c'est du sérieux, là. Et non, mais il faut au bout d'un moment. L'année dernière, je vous parlais du X. Comment on augmente la qualité intrinsèque de Leverkusen? Leverkusen a conservé quasiment tout son effectif, a même un effectif beaucoup plus large que l'année dernière. Sauf que si tu ne recrutes que des joueurs entre guillemets moyens plus, qui peuvent faire la Ligue des Champions, etc. Le président Caro, il a dit qu'il veut gagner la Ligue des Champions. Bonne chance, mon gars, mais il a le droit de le dire, c'est pas interdit encore. Oui, mais si tu veux, ils ont eu l'expérience de l'Europa League et tout ça, c'est qu'ils disent que cette expérience fait qu'on peut réussir quelque chose en Ligue des Champions. Si les gens qui n'ont pas vu ce match, il y a un truc extraordinaire qui s'appelle le replay, essayez de le regarder, c'est assez génial. Je trouve ça extraordinaire, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur cette rencontre, sur Openda, sur Leverkusen, qui est peut-être trop sûr de lui en ce moment. D'ailleurs, Xabi Alonso, il dit on l'a pas mérité, ça. Je dis, oui, mais j'ai envie de renvoyer la question. Ouais, mais l'année dernière, t'as gagné des matchs en les méritant pas forcément. Regardez Kosunou qui est parti quasiment au dernier moment, et il y a des gros débats en Allemagne sur le transfert. Mais Kosunou, l'année dernière, depuis le match, et Juju s'en rappelle, contre West Ham, le match retour, c'était plus le grand défenseur qu'on avait vu à la CAN et dans la première partie de saison. Donc Jonathan Tah, il est là resté alors qu'on pensait qu'il allait au Bayern. Exactement. Toutes ces choses-là font que ça doit se trouver. Je peux vous assurer que je pense que Leverkusen 2024-2025 va être assez génial, à condition que tout le monde se mette le nez dans le guidon, que les joueurs qui sont arrivés se mettent au niveau des anciens. Anciens, je parle aussi de Wirtz, évidemment. Mais je pense qu'ils vont faire une grosse saison. Mais attention à ce genre de coup d'arrêt. Comment on arrive à digérer cette défaite qui, de toute façon, devait arriver
Bien sûr, évidemment. Avec un beau mois de septembre à venir, hein, déplacement pour la Ligue des Champions sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam le 19 septembre. Ouais. Déplacement sur la pelouse du Bayern le 28 et puis le Milan le 1er octobre. Ça va être intéressant, les 5 prochains matchs du Bayern Leverkusen. Mon cher Julien, ça peut en faire rire certains. L'histoire d'Everton est un peu dramatique. Qui s'incline contre Bournemouth à domicile après avoir mené 2-0 à la 86e. 3 défaites déjà en première ligue, et puis c'est pas terminé, hein. John Textor arrive certainement.
Ouais, c'est peut-être la pire nouvelle, hein, d'ailleurs, pour les supporters d'Everton.
Comment ils le vivent, ça,
notre
d'ailleurs
ami JT, ils savent pas trop comment le prendre, parce que.
Tu leur dis un peu ou pas, qui c'est? Tu précises.
Ouais, dans les émissions que je fais, on raconte un petit peu tout ce qu'il fait, ce qu'il fait un peu de n'importe quoi au Brésil, même en France, tout ce qu'on a vu à Lyon ou à Botafogo, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, même si on n'est pas sûr, les Anglais sont pas sûrs qu'il ait l'argent pour aller chercher Everton, pour aller racheter Everton. Il faudrait d'abord qu'il vende les parts qu'il a à Crystal Palace, qu'il a pas encore fait parce qu'il veut, il aimerait plus d'argent pour ses 45% des actions. Mais s'il a regardé le match, je sais pas si il l'avait regardé, s'il a regardé le match samedi par exemple, il a vu en termes d'effondrement dans un match, aucune équipe dans l'histoire de la Première Ligue n'avait perdu après avoir mené 2-0 à la 86e minute. Incroyable. Jamais personne, ni à domicile ni à l'extérieur, de les voir s'effondrer de cette façon-là. Et c'est triste, hein, parce qu'ils se sont liquéfiés, en fait, eux, leurs supporters, le stade, tout le monde. J'ai jamais vu un truc pareil. C'était assez incroyable pour ceux qui ont regardé le match en direct et pas simplement un résumé après ou quoi que ce soit. Le match était d'ailleurs sur Canal+ samedi après-midi. Ils ont dû sincèrement, c'était impressionnant de voir comment une équipe qui jusque-là contrôlait la rencontre, elle était la meilleure équipe, et de loin Bournemouth avait eu un tir, je crois, jusqu'à la 87e minute, et comment tu peux t'effondrer parce que t'as un tel manque de confiance en toi, t'as un tel manque de leadership dans ton équipe, que tu puisses encaisser 3 buts en l'espace, donc de la 87e à la 94e minute.
chez toi, dans ton stade, à domicile, alors que tu mènes encore 2-1 à la 92e minute, et que tu prennes ces deuxième et troisième buts d'affilée de la façon dont ils les ont encaissés, c'est juste incroyable. Je sais pas comment à ce niveau-là, chez les pros, t'es capable de,
craquer,
je pense que liquéfier, ouais, de craquer, mais liquéfier, c'est vraiment le mot, parce qu'ils ont arrêté de jouer. En fait, ils savaient pas quoi faire. C'est, au lieu de se dire, bah, je sais pas, moi, on va tous aller derrière, on va mettre les 11 joueurs derrière, dans notre surface, et tous les centres, on va les dégager pour gagner 2-1 et sauver ce qu'il y a à sauver. Ben non, ils ont arrêté de jouer complètement, quoi. Et c'était des momies sur le terrain. Et c'est, je pense que c'est une défaite qui va faire très très mal. Déjà, alors je sais jamais si la trêve internationale, après un match pareil, c'est bien ou c'est pas bien. Si t'aimerais finalement pouvoir repartir tout de suite pour essayer d'oublier un petit peu tout ça, ou si là tu vas attendre 15 jours où tu vas ressasser ce qui s'est passé sur les 10 dernières minutes du match. Je sais pas. On verra bien. Leur prochain match, c'est à Aston Villa, donc c'est pas non plus un cadeau. Parce que si tu perds un quatrième match de suite en championnat, ils ont une différence de but de -8 déjà. Enfin voilà, c'est catastrophique.
Voilà, en attendant l'éventuelle arrivée de John Textor, qui va rêver grand sourire, enthousiaste, comme il avait fait lorsqu'il est arrivé à Lyon. -8 déjà en différence de but, Everton, hein, en l'espace de 3 journées. Voilà pour Everton. Dans un instant, le Barça, très espagnol, cartonne en Liga. On en parle ensemble avec Fred, Johan, Julien et Polo. Puis je vous rappelle ce rendez-vous, 21h45. Appelez-nous pour poser vos questions aux drôles de dames, mais également sur le chat, hein, n'hésitez pas. J'en lirai quelques-unes aussi et je les transmettrai à Julien, Polo, Johan et Fred. A tout de suite sur RMC, 21h11.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération Acteur avec Johan Crochet, Paulo Breitner, Fred Armel et Julien Laurence. Il y a plein de thèmes évoqués dans le chat de la chaîne YouTube, bien sûr. Johan, tu me parlais également, avec Paulo, on parle un jour de Franco Nora, ce qu'il fait à Gladbach aussi, oui. L'ancien Brestois. On prendra un peu de temps et peut-être même qu'on essaiera de l'appeler, tu sais quoi, de l'inviter un soir, lundi soir, Franco Nora.
Homme du match pour Mönchengladbach. Ouais,
il a fait une très bonne saison dernière, il repart fort, ouais, encore une fois. Et puis Johan, tu me dis qu'on en parle de plus en plus.
Nora, ouais, il y a des recruteurs qui m'ont en parlé. Donc.
Franco Nora, beau joueur de Ligue 1, hein, qui a réussi son exportation, entre guillemets, en Allemagne. Fred, le Barça a cartonné. Seul encore. Leader, 4 victoires, 4 matchs. Dernière victoire, c'était ce week-end, 7-0 contre Valladolid. Triplé de Rafinha, on parlera lui dans un instant aussi. Lewandowski, Koundé, Olmo, Torres. Et tu l'as dit en préparant cette émission, tu voulais insister sur l'identité aussi de cette équipe-là, quoi. 7 Espagnols sur 11 à la fin du match.
Non, au début du match.
Au début du match.
Dans le 11, encore mieux.
C'est une rareté,
c'est
quoi.
Aujourd'hui, au Real, il y en avait 2 et dont un qui aurait pas dû être là, qui est Ceballos. En général, il n'y a que Carvajal. Aujourd'hui au Real, par exemple. Alors, on sait que le Barça a beaucoup de problèmes financiers, etc., que certains joueurs ne sont pas venus à cause de ça. Bon, c'est un Espagnol aussi, mais c'est Nico Williams. Chiesa n'est pas venu à cause de ça. Et moi, je vais beaucoup dire du bien d'Hansi Flick, parce que je sais ce que je pense. Il est en train de réussir son pari. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il sait, avec son propre style, et on va parler de la verticalité de l'équipe, mais c'est-à-dire, on lui donne des joueurs, il se plaint pas, il prend les joueurs et il fait débuter des jeunes. Ce qui est dans la philosophie Barça est toujours excellente quand tu fais débuter des jeunes. Là, c'est Sergio Dominguez, un jeune joueur, un jeune défenseur de l'équipe B, qui a débuté ce match. Mais il a fait débuter plusieurs joueurs, je ne sais plus combien, depuis le début de la saison. Au départ, tu avais Cubarsí, Inigo, Balde, Casado, Pedri, Lamine, Yamal, Dani Olmo. Donc 7 sur 11 qui sont espagnols. C'est pas rien dans le football moderne et c'est pas rien. Je serais intéressé de savoir parmi les équipes. On parle
des premières équipes des 4 gros championnats,
ouais,
par exemple.
Ou alors prétendant à être en demi-finale de Ligue des Champions. Je pense qu'il y en a très peu. Alors, il y a une équipe en Espagne où il n'y a que des Espagnols. C'est ATT Club de Bilbao, puisque il y a
après,
que des bases.
Après, dans ce cas précis, c'est pas forcément un choix.
Ce qui est intéressant
aussi, sur la Masia.
C'est aussi le travail qui est fait au centre de formation. Voilà, c'est-à-dire que, notamment dans la recherche de joueurs dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire en Espagne. C'est-à-dire, ils sont pas tous catalans, hein, ceux qui sont au centre d'entraînement, au centre de formation du Barça. C'est aussi parce qu'il y a des scouts qui vont chercher des joueurs, ils les font signer. Je vous rappelle que Iniesta n'était pas catalan, mais venait de La Mancha. Il n'y a pas plus castillan que la Mancha. Donc, ce travail-là, il reste toujours présent, et surtout, il est très utile quand, pour des raisons financières, vous ne pouvez pas recruter d'autres joueurs d'autres pays. Donc moi, je trouve ça très bien. Ensuite, au niveau du jeu, moi, ce Barça m'étonne un peu. Moi, alors, l'an dernier, ils avaient très bien démarré aussi, on sait comment ça s'est terminé. Hein. Mais il faut quand même reconnaître que cette équipe du Barça a une véritable idée de jeu. Ça, c'est... Puis, je vais dire, une idée assez facile à comprendre, en fait.
C'est-à-dire, moi, je trouve que c'est une équipe qui ne se... C'est une équipe avec des milieux de terrain, qui joue bien au foot, qui garde la balle. On le sait, ça. Mais c'est une équipe qui, quand il y a l'occasion de faire des contres et de jouer extrêmement en profondeur, bah, le fait. Les deux premiers buts du Barça, regardez, c'est quand même des ballons. C'est vraiment la verticalité la plus absolue. Quand ça part de Koubarsi et que ça arrive à Rafinha, c'est que on sait sauter des lignes sur une très très longue passe. Donc c'est quelque chose qu'on a pu voir à certains moments avec le Barça, mais peut-être pas poussé autant. Je parle au moment de Luis Enrique, hein, celui qui avait rompu la tradition très horizontale du grand Barça. Donc moi je trouve ça bien que le Barça, avec Hansi Flick, de fait de la situation des joueurs qui sont là, s'autorise d'autres manières de jouer. Après, de toute façon, dans le football moderne, c'est ce qu'il faut.
Yoann. Après, ils ont quand même entre 65 et 70% de possession sur les 4 matchs.
Mais ils sont dans
le contrôle total qui est toujours une qualité.
Mais ils sont formés. Ça reste une équipe de milieu de terrain, le Barça. Quand le milieu de terrain du Barça ne fonctionne pas, on sait très bien que c'est toute l'équipe qui ne fonctionne pas. Mais moi, je trouve que ces deux premiers buts, ils sont, parce que c'est aussi la vision du Valladolid, contrairement à ce qu'ils avaient fait au Real à Bernabéu, où ils avaient pris 3-0, mais en faisant vraiment souffrir le Real à jouer avec une défense beaucoup plus avancée, il y a aussi la lecture de l'entraîneur. Voilà, il est là pour, voilà, qui a demandé à ses joueurs de faire de longues balles, de donner de longs ballons devant.
Donc, ce serait marrant, excuse-moi Fred, que le Barça revienne sur le devant de la scène européenne et nationale, c'est ce que je lui souhaite évidemment, avec un coach allemand au principe allemand, alors que l'histoire de l'opposition entre le Barça et le Real notamment, c'est les Allemands vont au Real et les Néerlandais vont à Barcelone. D'ailleurs, c'est un super débat à faire parce qu'il y a de quoi, dire. Mais en fait, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, Fred, c'est que je retrouve le Hansi Flick version allemande avec ses principes et la révolution du foot allemand où je disais toujours qu'il a rarement été mis sur le devant de la scène et que c'était au Bayern, évidemment, et puis ensuite en équipe nationale. Mais il était dans tous les, là où ça se passait dans le foot allemand depuis 15-20 ans. Mais pas forcément en première ligne. Alors là, il est en première ligne dans un championnat étranger, mais qu'il connaît bien aussi parce que l'Espagne a énormément influencé le football allemand. Il y a que la France qui pense que c'est les Français qui ont influencé les Allemands, mais ça c'est autre chose. Le football espagnol
est tranquille.
Mais non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, il y a tellement de conneries qui ont été dites. Allemands sont devenus champions du monde en 2014 avec tout ça, en Allemagne, on parle essentiellement du football espagnol, comme on parlait du football néerlandais, comme on fouillait. Non, et c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, c'est ça. Mais juste, j'ai fini ma parenthèse.
Voilà, c'est intéressant.
Et franchement, Hansi Flick, moi, je trouve que pour l'instant, c'est un sans faute au niveau sportif, mais aussi dans sa communication.
Bon. Après voilà, on le sait, on est le 2 septembre, les bilans on les fera.
Ouais, mais tu sais ce que je vais dire,
déjà dans 3-4 mois quoi.
Un entraîneur qui n'a pas eu ce qu'il voulait, qui ne dit pas oui
avec ce matériel
plein, qui dès la première conférence de presse une fois le marché terminé, aurait dit oui, alors on fait ce qu'on peut parce que il y a certains joueurs qui veulent venir ne sont pas là, mais lui il ne dit pas ça. Donc
et mine de rien, ça me fait toujours 4 journées de jouer déjà. On dit oui, c'est que le début. 12% du championnat déjà. Comment ça ? 3 journées, c'est 12%?
Non, ils ont 4 en Espagne.
Ah oui, en Espagne, tu parles, d'accord.
4 journées, déjà 12%. Donc quand on dit c'est que
oui,
le début.
Oui, mais à chaque fois, les gars, on se rappelle et puis on se dit on n'aurait pas cru. On a quantité d'exemples comme ça de clubs qui marquent par un nul, 2 défaites et qui à la fin sont podium ou deuxième.
Toujours faire attention à ça.
Ça marche surtout dans le cas des surprises, un peu moins que les gros clubs quand même.
Alors après,
un peu moins que les gros clubs, effectivement.
Sur Rafinha, rapidement, Rafinha. Triplé.
Rafinha, il est là. Il a fait début 11 passes, il va faire beaucoup mieux cette saison.
Non, mais le truc, c'est qu'il est déjà aujourd'hui, à presque un tiers des buts qu'il a marqué l'an dernier. Et presque un quart des passes décisives qu'il a fait l'an dernier. Non, il est dans une forme, il a changé de look et tout ça.
Bon, voilà, c'est ce que me rappelle Jimmy également dans le casque. Il a du matériel en Ziflick non plus, hein. Il a pas récupéré des gamins de la Masia de 17 à 18 ans moyenne.
Non, ouais, mais sauf que le mélange.
Yamal, Olmo, Rafinha, Lewandowski, Pedri,
Olmo, la relation Olmo-Pedri, elle fonctionne bien.
Olmo, joueur intelligent. On aime beaucoup Olmo. Et Yamal, on en parlait pendant la pause, hein. C'est extraordinaire. Enfin, toi, à chaque fois, tu me parles de Ansu Fati. Attention, j'ai le souvenir, le traumatisme Ansu Fati.
Ouais, mais c'est-à-dire que.
Mais il est en avance sur Ansu Fati.
Il est en avance, mais le... Enfin, à l'époque, c'était un vrai phénomène.
Je suis pas persuadé,
moi, de ça. Ansu Fati, c'était exceptionnel.
Quand on se souvient de ce que faisait Ansu Fati au début. Parce que lui, il l'a fait aussi avec la sélection espagnole. Tu vois ce que je veux dire?
Alors, tout ce que j'espère, c'est que Hansi Flick sera assez intelligent pour ménager le gamin. au niveau physique. Il n'a que 18 ans. Donc il faut faire très attention. Donc de voir... Voilà, il faut lui souhaiter qu'il n'y ait pas de grosses blessures. Il faut souhaiter que l'entourage lui empêche de prendre la grosse tête. On sait aussi qu'il y a des joueurs qui se sont perdus. Donc c'est exceptionnel. Et comme me disait ma grand-mère, pourvu que ça dure. Elle parlait pas comme ça, mais comme disaient les grand-mères, pourvu que ça dure.
D'accord.
Ansu Fati, sa première grosse saison au Barça, si les stats sont à jour, c'est 24 matchs, 7 buts, 2 passes décisives. Il a 17 ans.
Redis-moi.
24 matchs, 7 buts, 2 passes décisives.
Yamal, c'est quoi la saison dernière? On va regarder ça. Julien, ton regard sur Lamine Yamal, son évolution. J'imagine que t'en parles également sur tes plateaux en Angleterre.
Ouais, incroyable. C'était sa 10e passe décisive, je crois, ce week-end, à 17 ans. Messi avait 20 ans pour sa 10e passe décisive. Pour donner un ordre d'idée. Je sais que c'est pas bien de comparer les générations.
Mais oui, mais ça compte quand même.
Mais à un moment, ça compte quand même. Pour moi, la première pour Lewandowski, enfin sa première passe pour Lewandowski, elle est extraordinaire. Ouais, oui. Le toucher de balle, la vision, tout ce qu'a. Alors après, Valladolid, c'est. J'ai trouvé qu'ils leur ont autorisé tellement de liberté sur le ballon, ils ont eu tellement de temps pour développer leur jeu, la verticalité dont Fredo parlait tout à l'heure. Mais voilà, tout ça. Donc il y aura des adversaires beaucoup plus difficiles où il sera moins bon, c'est sûr. Mais ce qui fait à cet âge-là, la maturité qui monte, notamment, on l'a dit souvent, hein, juste pour finir. Mais c'est son, pour moi, c'est les choix qu'il fait. Il n'y a jamais un mauvais choix. Quand il faut centrer, il centre. Quand il faut tirer, il tire. Quand il faut faire un ballon en profondeur, il le fait. C'est toujours, il a le bon choix, quoi.
C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ça. Rappelez-vous ce qu'on disait de Vinicius, c'est qu'il faisait physiquement, il avait cette explosivité, il était très dur à défendre, etc. Sauf qu'il avait et il faisait toujours les bons choix. Il a fallu beaucoup travailler. Lui, il a déjà ça. Mais il a
qu'on mesure pas le joueur qu'il peut être, en fait.
C'est ça le plus dur, hein.
Va après, devenir. Après, il y a la question de la morphologie aussi, on en parlait aussi. Est-ce qu'il va.
On peut le dire parce qu'on en parlait hors antenne, pendant la pub. Qu'il soit bien suivi, qu'il fasse pas de conneries par rapport au.
Il a aucun intérêt à
s'approfondir.
Il a aucun
intérêt à musculation, etc. Parce que ça peut être très mauvais pour les blessures et tout ça, pour les. On parlait de ce côté un petit peu colibri, insaisissable qu'il est. Il faut qu'il puisse rester comme ça, rester très fibreux. Légèreté, très fibreux, très, etc. Parce que s'il prend trop de masse musculaire, ça peut l'affecter dans son jeu. Mais là, il faut qu'il soit bien conseillé au club, c'est tout.
Bon, il a 17 ans, je précise, hein, il est en juillet dernier.
Ouais, 17, sans compte quoi.
Le rôle, il avait 16 ans. Ouais. Ansu Fati, d'ailleurs, est revenu à Barcelone. Hein. Il s'entraînait pour la première fois avec le groupe aujourd'hui.
Il avait été prêté à Brighton l'an dernier, où ça avait été compliqué pour lui, hein, Julien. Mais il s'est reblessé. Ouais. Mais les informations qui arrivent de Barcelone sont plutôt encourageantes sur son état physique et mental.
Bon. Voilà pour le Barça. Carton plein pour l'instant. Tiens, la troisième minute de la soirée, on va en Allemagne. Ah. On envoie la musique, Polo. Bayern, ah ouais, la couleur est...
Nous ne sommes pas en Allemagne, nous sommes en Bavière. Voilà.
Wir sind nicht in Deutschland, c'est ça?
Voilà, wir sind nicht in Deutschland, aber in Bayern. Pourquoi est-ce que je dis ça?
Parce que là, c'est très folklorique, là. Là, c'est la fête du village, là.
C'est la fête de Bavière.
C'est la kermesse.
T'as déjà porté le costume traditionnel bavarois ou pas, mon cher Polo?
Non, mais j'aime beaucoup celle des femmes, les crêleux notamment, parce que ça montre leur poitrine.
Oui, bon, on avance, mon cher Polo. Allez, la minute. Voilà.
Rentrée de Thomas Müller sur le terrain ce week-end à domicile pour un match très moyen, en tout cas en seconde période contre Fribourg. 710 matchs sous le maillot du Bayern Munich. Il a battu le record du grand gardien Sepp Maier. On lui a fait la fête dans le stade, la Zuccourieux lui a fait la fête dans le stade, évidemment tous les supporters, etc. Je crois qu'on se rend pas compte de la carrière de Thomas Müller, qui a commencé d'une façon très chanceuse, on l'oublie, mais c'est Louis van Gaal. Il était en partance pour Hoffenheim et c'est Louis van Gaal à l'époque qui dit « Ouais, le petit jeune, laissez-le moi. Le mec, il était galbé comme il est maintenant, complètement une tige, etc. » Et il fait la carrière qu'on connaît. Il a eu une phrase extraordinaire après la rencontre. On lui dit « Mais vous rendez compte ce que vous êtes pour le Bayern Munich et tout ça ?» Et il dit « Ouais, Müller, encore un Müller, évidemment. » Mais on lui dit « Le vrai, c'est Gerd Müller. » Parce que Gerd Müller, comme disait Uli Hoeneß, si le Bayern en est là aujourd'hui... Et je trouve ça, cette phrase très intéressante, parce que rappelez-vous, quand Beckenbauer est décédé, on en a parlé un petit peu, qui était le véritable numéro un du football allemand. Le roman national, c'est Beckenbauer, mais le roman populaire, c'est Gerd Müller. Et que Thomas Müller lui dise qu'il était buteur, évidemment, pas du niveau de Gerd Müller, parce qu'il était beaucoup plus polyvalent, le style de jeu de Thomas Müller, et qu'il lui rend hommage comme ça,
on voit ce qu'est Thomas Müller et je trouve ça extraordinaire de le fêter de cette façon. Il n'a que 34 ans, bientôt 35, et je voudrais bien savoir ce qu'il va faire. J'aimerais bien savoir ce qu'il va faire dans les 30 prochaines années du côté du Bayern Munich.
T'as une idée ?
Ah ben moi je pense, alors il est déjà plus ou moins joueur-entraîneur. Ça serait extraordinaire qu'il devienne l'entraîneur du Bayern avec succès, parce que sinon tu vas te faire oublier tout de suite. Mais il est super intelligent. Après, moi, les infos que j'ai sur lui, bon, il est un peu space aussi. Hein, c'est quand même quelqu'un qui sait mettre des coups de couteau dans le dos pour virer des entraîneurs et tout ça, quoi. Donc c'est spécial.
Ça sera donc un excellent entraîneur. Parfait.
Voilà. Ah, j'en sais rien. Oui, jusqu'au jour où on lui met un coup de couteau.
Voilà, mais bon, c'est ça, exactement.
Voilà. En fait, en tout cas, ce week-end, c'était assez
Thomas émouvant,
Müller. Ce qui se passe. Voilà, Thomas
et Müller. Pour ceux qui pensent que Polo a choisi une musique comme ça, un peu au hasard.
Ah non, non.
Il faut se rendre compte que l'été, les espèces de festivals en Allemagne.
Mais il y a des millions
en extérieur et ça, c'est à la télé.
En allemande,
c'est tous les soirs.
À la télé. À la télé.
Écoute.
En Suisse alémanique, en Autriche, il y a des centaines, il y a des millions de personnes à la télé qui écoutent ça.
Bien sûr.
C'est essentiellement pour les personnes âgées, mais on recycle évidemment.
Mais t'aimes bien ce rythme, cette sonorité pour toi.
Moi, ça me donne une bière de soif. Ça me
fait c'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est bien.
Moi, c'est pas la musique.
Polo,
c'est culturellement.
Ah oui, c'est culturel,
j'ai toujours dit.
Ouais.
Je m'installerai jamais en Bavière, parce que la Bavière, c'est pas mon truc. Mais si j'étais à Munich, là, et qu'il y a la musique comme ça, et qu'il y a du beau soleil, on voit la bière, quoi.
Chacun doit faire une fois dans sa vie, il n'avait jamais fait hein, la fête de la bière à Munich.
Ouais,
il ne faut jamais d'ailleurs amener sa bière à Munich, c'est une expression aussi qui vaut pour plein de domaines.
Ni sa saucisse à fond.
Voilà, restez avec nous dans un instant. Nous allons évoquer je ne sais pas quoi d'ailleurs. Le Milan avec Johan Crochet, bien sûr. Le Milan.
Lise ses costumes à Milan.
Hein ouais, je ne sais pas s'il y a des musiques folkloriques aussi à Milan. On revient dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Et oui, la dernière demi-heure des drôles de dames sur RMC. D'ailleurs, important, précision importante, hein, avec Fred, Polo, Julien et Johan, la semaine prochaine. On sera là le mardi soir à 20h et pas le lundi soir à 20h, car il y aura un match de l'équipe de France. Et comme il est absolument hors de question de trapper un épisode des Drôles de Dames, nous serons bien là le mardi soir à 20h, Génération After, avec les quatre personnes ici présentes. Ça vous va, mardi ? T'as noté, Polo ? Tu seras bien là ?
Oui, oui.
Polo, je te trouve très en forme. Je ne sais pas si c'est l'été, mais très enthousiaste.
J'avais cette analyse, en effet. Je commence bien la saison. Je ne sais pas comment je vais la finir, mais vous prendrez le relais. Hein, c'est comme la Vuelta.
Il y a l'Allemagne et l'Angleterre qui jouent. Et les Pays-Bas. Il y a un Pays-Bas-Allemagne.
N'oublie pas que les points qui sont pris ne sont plus à prendre.
Ah non, c'est pas comme ça que ça marche ici. Là.
Ah ouais, mais
tu gères bien ton effort et t'es bon du début à la fin.
Ouais,
mais c'est vrai que
j'ai remarqué la saison dernière, certains d'entre vous ont eu des périodes de creux comme ça.
C'est tout à fait exact. Il y a des moments où je suis pas content du niveau de l'émission, pour des raisons personnelles. Mais je pense que depuis le début de la saison, c'est bien parti, donc ça va. Il faut continuer comme ça.
Si on ouvre sur Adenheim un lundi sur quatre, ça va fonctionner.
Déjà, ça te remet un peu de.
Très bien. Mais moi, ça me va. Attends donc que la Ligue des Champions reprenne, on sera obligé de parler du Bayern, mon cher Polo aussi.
Oui.
Possible.
Mais très bien, il y a plein de choses à dire sur le Bayern.
Polo, tu m'isoles ça aussi, mon cher Polo.
Il faut laisser quelques matchs aussi pour comprendre.
Très bien, ok.
De compagnie et tout ça, il y a plein de choses.
Très bien, magnifique.
Et comme Hurtzeler aussi en première ligue, c'est génial.
Oui. Bon, Polo, on ne fait pas trop non plus temps fort, mais calme-toi quand même. Garde-en un peu sous la semaine.
C'est toujours le maillot rouge.
Johan l'AC Milan en difficulté. C'est confirmé. Nul à la Lazio. De partout. 2 points en 3 journées. Le Milan a déjà épuisé ses tifosi.
C'est assez étrange parce que en l'espace de 3 journées de championnat, on a l'impression que les tifosi ont vécu une année quasiment une saison complète parce qu'il s'est passé trop de choses en 3 matchs. Je les ai notés, mais je vais même pas toutes les énumérer parce que ça aurait pas trop de sens. Mais il y a eu donc 3 matchs entre le Torino, Parme et la Lazio, mais entre le premier match où il y a la compo un peu folklorique, où il y a beaucoup de stars qui sont sur le banc, mais c'est pour mettre des joueurs en forme, qu'on fait plus d'entraînement, où ça se passe pas bien, t'es mené 2-0, tu remontes à 2-2, le stade explose, Morata un peu en sauveur, mais Morata qui se blesse aussi en même temps dans les arrêts de jeu, et Morata qui à la fin du premier match vient de dire, faut qu'on change de mentalité, alors que le mec, ça fait 15 jours qu'il est là, mais il a tout compris. Le deuxième match à Parme, catastrophique, où Théo, il est à haut, notamment les attitudes sont vraiment pas bonnes, sont pointées du doigt par les supporters. Il y a les premières polémiques, puis Fonseca décide que pour le troisième match, le match successif contre la Lazio ce week-end, comme Théo, il est à haut, ont pas été bons à Parme, et ben, ils sont sur le banc. Il prend la décision en début de semaine, il leur explique qu'ils vont pas jouer contre la Lazio. Donc il commence comme ça, il mène 1-0 sur un coup de pied arrêté, il gère plutôt bien la première mi-temps contre la Lazio, c'est plutôt bien géré. La Lazio avait commencé très fort, mais le but les a éteints tout de suite. Ils avaient mis beaucoup d'agressivité, mais ça les a éteints. Par contre, la deuxième mi-temps, elle est catastrophique. Et quand Milan est mené 2-1, bah, il fait rentrer Théo, Léao, Abraham, Moussa, des joueurs de poids. Théo et Léao tout de suite, ah oui, en ordre de marche. Ils sont sur le but de l'égalisation. Mais derrière, il y a le cooling break. Cooling break, bah, on connaît.
La pause fraîcheur.
La pause fraîcheur. Tout le monde va vers l'entraîneur, écouter un peu les consignes, ou en tout cas, prendre une bouteille d'eau, peu importe. Bah, eux, ils restent à 50 mètres de là, de l'autre côté, ils y vont pas. Il y a Abraham, en plus, qui leur dit, bah, venez.
Ça boude.
Alors, Milan explique que non, qu'il n'y a pas de problème avec l'entraîneur, et je peux le croire, hein, qu'il n'y ait pas de drama avec Fonseca, il n'y a pas de problème, mais, en tout cas, leur action à Théo et Léao lors de ce cooling break, lors de cette pause fraîcheur, laisse la porte ouverte à toutes les interprétations au niveau médiatique, à tous les commentaires possibles. Et au moins, ils ont été, je vais dire que si en tout cas, ils n'ont pas eu la volonté délibérée de s'afficher comme ça pour montrer qu'entre eux et l'entraîneur, il y avait déjà une distance, ils ont été imprudents, en tout cas, au moindre, ils ont été imprudents parce que ils savent très bien qu'en Italie, ça va très vite et qu'ils ont commencé sur le banc et qu'en agissant de telle sorte, ça allait forcément déclencher une espèce de vague médiatique qui s'est ajoutée à tout ce que j'ai expliqué depuis le début de la saison et qui fait que les supporters, il y en a qui en ont déjà marre du début de saison. Il y en a, ils se disent, mais attends, on est au bout de 3 journées et on est fatigué. On est déjà fatigué de notre club parce que, au-delà même des résultats et des prestations qui sont pas géniales, mais ça, tu peux t'y attendre. Il y a beaucoup de changements. Fonseca essaie d'amener des changements et pour l'instant il y réussit pas trop parce que tout ce qu'il veut mettre en place, notamment son ballon, le pressing, il explique sans arrêt qu'il faut chercher à récupérer le ballon le plus rapidement possible, donc une sorte de contre-pressing très agressif, on le voit jamais. Donc est-ce que c'est que les joueurs veulent pas le faire, est-ce que c'est que ça va prendre plus de temps, est-ce que c'est, on sait pas, mais il y a beaucoup trop de choses. En plus, hier on apprend tout de suite après le match que Zlatan, normalement qui est censé être un peu la figure médiatique du club, ben il est déjà en vacances. Et donc pour gérer l'affaire Théo Léao, ben il serait servi que Zlatan vienne devant les caméras et dise oh, ben en fait il n'y a rien du tout, arrêtez de nous chercher. Donc c'est Fonseca qui a eu ce rôle-là.
Attends, c'est-à-dire, j'ai pas suivi, il commence ses vacances?
Ouais, il a pris les vacances après le dernier jour du mercato.
D'accord, bon, il a beaucoup bossé après.
Non mais ça, ok, mais tu peux attendre au moins le dimanche. Qui est le match qui soit passé et que après d'autres vont prendre des vacances. Fourlani, Moncada, ils vont prendre des vacances. Il y a pas de problème. Ils ont le droit d'en prendre. Mais attends au moins le match du samedi qui était très important quand même. Où tu sais en plus que bah, Théo et Léao vont commencer sur le banc parce que Fonseca l'a prévenu, Ibra, et il a prévenu tout le monde qu'il allait les mettre sur le banc. Donc tu sais que ça peut être chaud. Tu sais qu'il va falloir être derrière ton entraîneur si ça se passe pas bien. Donc c'est là où il a vraiment pas bien joué parce que Zlatan, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il est encore pas dans la peau d'un dirigeant. Qu'il a la stature médiatique du mec qui pèse, évidemment.
Plus simple.
Mais qu'il aime bien aussi, quand même, les privilèges de l'ancien grand joueur qu'il était.
C'est intéressant, ça peut être la limite.
Et je trouve que ça colle pas encore. Alors, attention, c'est un début, c'est peut-être normal aussi.
On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre.
Non, mais il faut qu'il apprivoise aussi ce poste de dirigeant. Être dirigeant à Milan, attention, hein, c'est pas simple. Il y a tout de suite des comparaisons qui sont faites avec Paolo Maldini, qui a été là pendant plusieurs saisons, avant de partir, en fin de saison, non pas dernière, mais la saison d'avant.
Ouais.
Mais en tout cas, il y a une espèce d'ambiance pas géniale à Milan, et notamment, ce sentiment que émotionnellement, c'est très instable. Et quand tu enclenches un nouveau projet où il y a déjà beaucoup de changements, où tu as besoin de sérénité et de travailler en sérénité, c'est un peu délicat.
La trêve internationale arrive, elle peut faire du bien. Je rappelle qu'après la trêve, justement, c'est contre l'Inter, hein, que le Milan
reprend. C'est pas tout de suite après l'Inter, mais la journée d'après.
La journée d'après.
C'est l'Inter. Et attention, Milan reste sur 6 défaites consécutives contre l'Inter. Une victoire sur les 9 derniers derbies.
Il a été giflé aussi récemment.
Autant vous dire que si ça se passe pas bien non plus là avec le derby, la pression va encore augmenter pour Milan.
Je rebondis sur un truc et je voudrais poser question à mes 3 potes. Tu parlais des postes fraîcheurs. Est-ce que chez vous c'est sponsorisé?
Ah
non.
Ben non, les gars,
pas à ma connaissance.
Il y a pas en Angleterre, il fait passer chaud en Angleterre, enfin normal.
Ouais. En Allemagne non plus.
Non.
En Italie, est-ce que j'ai découvert cette saison en Liga, c'est une marque d'eau qui sponsorise à la télé La pause fraîche.
C'est-à-dire que t'as un bon dos avec marqué cool. Bah,
en fait,
break,
t'as une sorte de,
ils ont collé une marque d'eau à cet instant-là.
Voilà. Donc, en fait, c'est une incrustation avec une sorte de.
Mais là, c'est quoi?
Et moi, je vous dis, bien sûr.
C'est que ça devient pervers parce que parfois, tu dois forcer des pauses fraîcheurs pour placer le sponsor.
Oui, mais bien entendu. Parce que, franchement.
Des Américains, espagnols.
Et donc, le côté, il y a une espèce de, d'incrustation. On voit l'eau qui coule. C'est Solan de Cabras qui est une eau très connue. Ah ouais, non, mais c'est un truc qui se voit beaucoup au moment de la pause fraîcheur. Donc, je me suis fait la réflexion ce week-end et je me disais, à un moment, je pense que bientôt, on aura, naturellement des pauses. Pour mettre de la pub. Alors, et pour pas qu'il y ait que de la pub à la mi-temps.
Alors, attention. Ouais. Nous, en Italie, on n'a pas ça. Par contre, on a la VAR, qui est un sponsor.
Qui était, c'est magnifique.
Qui était crypto.com pendant deux saisons. Non, c'est magnifique. Et qui aujourd'hui est Iliad. Donc, en quelque sorte. Donc, c'est un petit bandeau VAR en cours avec le logo du sponsor. Et nous, lors des changements, des remplacements, depuis deux ou trois saisons en Italie, l'écran se sépare en deux. Et donc, vous avez d'un côté le changement, de l'autre côté la pub. Et vous n'avez plus le son du changement.
On n'en est pas
vous avez le son de la pub, ce qui fait que parfois, vous avez les standing ovations.
Après, je les entends pas.
Après un super performance, on ne les entend même plus.
Sur le VAR, ça pose un vrai problème.
Vas-y, Polo.
C'est pas sur Sky qu'on fait ça, non? Beaucoup, non?
Nous, tout le monde le fait. Sky et DAZN le font en Italie.
Parce que le VAR, parce que la boîte qui paye la pub de VAR, s'il n'y a pas de VAR, elle n'apparaît pas. Donc finalement, ça va pousser les arbitres par moment.
Là, tu vas dans le complot.
Non, pas le complot. Mais enfin, s'il n'y a pas de VAR.
Non, mais un jour, on va sponsoriser les cartons rouges. Le carton rouge est offert par Opel.
Je suis persuadé que les postes fraîcheurs, qu'il y aura bientôt une pause obligatoire au milieu de la première période. Mais
regarde.
Au truc comme ça. Mais bien sûr, on aura.
En américaine, ça fait 40 ans qu'ils font.
De cartons, des pauses. De la pub.
Des temps morts de 4 minutes au basket en NBA pour replacer un maximum de pubs.
Donc moi, je
fais des matchs de 3 heures.
Pause fraîcheur. En plus, faut quand même reconnaître
on y va, les gars,
que l'incrustation était plutôt
je n'aime
bien
pas du tout ce discours de gauchiste que vous avez, les gars, les amis.
Tu vois, tu dépasses sur ça.
Oh là là.
Allez,
la minute. On dirait des anticapitalistes.
Polo, tu vas écouter sagement la dernière minute de la soirée. Elle est espagnole. Alors, a priori, on va partir. Sur quoi? Du flamenco? Sur une bonne variété espagnole? On va écouter ça. On y va. Ah ben magnifique.
C'est tango.
J'aurais pu dire tango.
Libertango.
Je n'ai jamais passé celle-là, c'est une des plus connues histoires.
Non, bah non, justement.
D'accord.
Libertango. Création du plus grand, l'un des plus grands de l'histoire du tango, le grand rénovateur du tango moderne, Astor Piazzolla. Et c'est une chanson, c'est une musique qu'on connaissait beaucoup en France, parce qu'elle s'était chantée par Thierry Marchand. Par Guy Marchand. Moi, je suis tango. J'ai cette musique dans la peau. Donc voilà. Pourquoi du tango? Parce que je veux vous parler de deux Argentins, du papa et du fiston. Alors, de ce que j'aime dans le foot, voilà, j'aime bien les familles, j'aime bien l'histoire de famille, j'aime bien tout ça. Et j'ai ressenti quand même une certaine émotion en voyant papa Diego Simeone faire débuter le fiston Giuliano Simeone, 21 ans, lors d'un match important, puisque c'est le match de deux clubs cousins, l'Athletic Club de Bilbao qui recevait l'Atlético qui a gagné 1-0 en toute fin de rencontre dans le temps additionnel, un véritable hold-up comme on dit. Alors il avait déjà débuté Giuliano il y a 3 ans, mais il faisait pas encore partie de l'équipe première, donc là après il a été prêté, etc. Là ça y est, il est joueur de plein droit de l'équipe première, avec une licence d'équipe première, ce qu'on appelle le dorsal de l'équipe première de l'Atlético. Et ça a été l'occasion pour le club et pour dans les médias et sur les réseaux sociaux de ressortir beaucoup de photos, notamment une photo d'il y a 20 ans exactement, où on voit Simeone qui reçoit un hommage à l'Atlético il y a 20 ans, avec dans ses bras un gamin d'un an, dans ses bras au Calderon, et 20 ans plus tard, ce joueur, il est là, incroyable. Il porte le maillot de l'Atlético, et en plus, il a une attitude très, très Atlético. Ce qu'on a souligné de lui, il est attaquant, on souligne de lui, c'est la ferveur et la puissance, la
fille de son
père qu'il met sur le terrain. Ça rajoute quoi? Je termine là-dessus. Ça rajoute un peu plus de lien qu'il y a entre Simeone, la dynastie Simeone, et ce club. C'est une nouvelle page entre un Simeone et l'Atlético qui est en train de s'ouvrir.
Bon, il a même un troisième fils hein, qui joue à un niveau différent. Je crois que c'est l'aîné qui a 27 ans.
Alors, il joue
ans,
au Rayo Majada Honda.
Voilà, c'est ça.
En quatrième division.
Ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, il y a un joueur qu'on, à l'époque où le Rayo Majada Honda est en deuxième division, Enzo Zidane avait fait une saison là-bas. Mmh.
C'est pour ça que je connaissais ce nom.
Voilà, exactement. Majada Honda, c'est une petite ville dans la banlieue de Madrid.
Voilà.
Alors, et puis l'autre, il joue, Johan, il joue en Italie.
Giovanni.
Installé déjà en Serie A.
Napoli.
Voilà pour les minutes de la soirée, on s'est régalé.
Polanski a dû utiliser cette musique sur.
Mais je sais pas, moi. T'es sûr? Moi, je crois que c'est dans l'armée des douze singes. Également, avec Brad Pitt. Bref, peu importe.
Ouais, Alors, à ce temps-là, c'est une musique absolument extraordinaire.
Merci à Valentin sur le chat, hein, qui nous dit l'after, seul truc qui puisse faire aimer le lundi soir.
Oh, c'est beau ça!
Ouais.
Attends, et ça pourrait.
Ouais, mais cette musique, pas forcément, bon sang, Polo.
Les gars, on est sur un tango. C'est culturel, mais, les gars!
Nouveau, la saucisse et de la bière, là, maintenant. Allez, on revient dans un instant
c'est
pour
extraordinaire.
Les. Car les auditeurs, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les quatre drôles de dames comme tous les lundis soirs de 20h à 22h. Et semaine prochaine, notez bien ce rendez-vous. Ce sera le mardi soir que vous pourrez écouter les quatre drôles de dames. Match équipe de France oblige sur RMC le lundi soir. C'est parti pour le carré des auditeurs. Je vais accueillir tout de suite Léo. Salut Léo. Bienvenue Léo, bienvenue sur RMC et dans Génération After. Alors, question pour
Polo.
Polo, allons-y, il t'écoute.
Alors, bah, je ne vais pas être nouveau, hein, je vais parler du Bayern. Désolé, Polo.
Super.
bon, je ne vais pas parler du match d'hier, hein, que j'ai trouvé catastrophique. On n'a rien compris.
En première mi-temps.
Ouais. Moi, bon, j'ai surtout envie de parler de la direction sportive. Parce que justement, il y a énormément de fins de contrat qui arrivent. Il y a Kimmich, il y a Davis, il y a Neuer, il y a Müller. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'en fait, là, moi, je vois pas trop où va le Bayern en ce moment.
Bah, je pense que le Bayern est dans un trou générationnel, dans le sens où il y a beaucoup d'anciens qui sont encore là et qui n'ont pas forcément réussi, ou tout du moins ont passé leur prime, pour parler franco-anglais. Si tu veux, la politique sportive, elle est un petit peu compliquée en ce moment, pour des raisons bien simples, depuis quelques années, et c'est pas lié à la direction sportive actuelle, notamment avec Max Eberl, c'est qu'on a fait... On a donné des contrats à des joueurs qui sont devenus des contrats de rentiers. Et ça a commencé, je le dis souvent, avec Lucas Hernandez, qui est un excellent joueur, c'est pas le problème, qui en plus était polyvalent, mais qui, si tu veux, ont grévé complètement la masse salariale du Bayern Munich. Et aujourd'hui, pour faire une phase de transition, parce que le Super Bayern, ce que j'appelle le Super Bayern, qu'appelait la presse allemande, est fini pour moi. Et ben, c'est très difficile de faire évoluer cette masse salariale. Le cas Kingsley Coman est très intéressant. Moi, j'étais intimement persuadé qu'il allait partir. Finalement, il est encore là. Quand Thomas Tuchel à l'époque, avec ses qualités et ses défauts de coach, réclamait un numéro 6 et qu'on a le même numéro 6 qui débarque un an après, on peut se poser la question de savoir mais comment ça se fait que ça n'a pas été fait à l'époque. Ensuite, l'équipe, elle est très compétitive. Arrêtons. Le problème, c'est que moi, j'en ai un petit peu marre de ceux qui parlent du Bayern parce qu'on a vécu 10-15 ans du extraordinaire. C'est-à-dire que peut-être qu'on a le droit d'être un petit peu moins performant. Je rappelle que Thomas Tuchel a ramené le Bayern en demi-finale de Ligue des Champions. Ça faisait 3 ans que c'était pas arrivé. Le Real était supérieur, mais à quelques minutes près, il était en train de faire un formidable hold-up. Hein, faut pas l'oublier. Donc, le fait que tu baisses un petit peu, c'est pas grave. Le problème, c'est de comprendre la nouvelle stratégie sportive. J'ai pas tous les noms en tête là. On fera dans quelques semaines, Nico, si tu le permets, ce qui se passe sur les jeunes qui sont prêtés en ce moment au Bayern Munich. On parlait de Paul Wanner tout à l'heure. Qui sont prêtés par le Bayern. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle stratégie qui s'est mise en place, notamment par l'arrivée de Freund, ancien de la galaxie Red Bull, qui permet de générer au passage beaucoup d'argent, parce que des joueurs sont vendus, mais de préparer peut-être l'avenir d'une façon moins clinquante que celle qu'on a vue ces dernières années en allant chercher des grands joueurs, des Harry Kane, etc. Bon. Donc, la politique sportive, il va falloir attendre un petit peu. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Il faut défendre compagnie pour le moment, même si ce qu'il a fait tactiquement contre Fribourg, il y a tellement de choses à dire avec ses deux centraux, tout seul en première mi-temps, mais ça a marché en première mi-temps. Le problème, l'efficacité dans les 30 derniers mètres n'était pas là. Mais en seconde mi-temps, c'était pas bon. Mais observe ça
éloigne-toi du supporter de base, j'ai envie de dire, du Bayern Munich, pour regarder comment ça va évoluer. Tout le monde l'attend au tournant en Allemagne pour flinguer compagnie, donc la politique sportive derrière. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, et parfois on a le droit de prendre un peu de temps.
On prendra le temps de parler de compagnie, de son travail depuis qu'il est arrivé au Bayern. Merci Léo. Tu as fait le 32-16, très bonne soirée à toi. Guillaume est avec nous, salut Guillaume.
Bonsoir les Dédés, vous allez bien?
Bien, bien. Oh, un petit accent espagnol, j'ai l'impression là.
Oui, bon, pas vraiment, mais en tout cas, oui, effectivement, je vais parler de deux clubs qui vont assez mal, et plus particulièrement du mien. On va parler surtout de Sevilla Football Club et de Valence. Je voulais poser une question donc à Fredo. Que pense-t-il de cette situation? Je explique. J'avais déjà appelé il y a 2 ans, juste après que. Presque à la fin de saison, ou la fin de, plutôt de l'ère Lopetegui. Et on était à peu près en même période, hein, en septembre, au début de saison. Et je craignais évidemment l'avenir du Sevilla Football Club, puisque je trouvais que les mercatos étaient catastrophiques, que l'équipe n'allait pas. Et c'est devenu de pire en pire. Alors certes, il y a eu une Europa League au milieu, mais.
Oui, mais c'est anecdotique, malheureusement, par rapport à la situation du club.
Alors vas-y, Fred.
Écoute, ta question est très bonne et tu as raison de parler des deux clubs. Les deux derniers de la Liga aujourd'hui, c'est Valence, Séville 2 points, Valence 1 point. Vous vous souvenez de ce qu'était Séville et Valence il y a 10 ans? Voilà, c'est-à-dire c'était toujours des prétendants à la Ligue des Champions et des prétendants à pouvoir déranger les deux mastodontes et qui étaient des concurrents vraiment directs de l'Atlético. Voilà, c'est un moment. Il y a l'expression qui dit tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise.
Elle se casse.
Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Là, à un moment, ça va plus passer pour Séville et Valence. Je pense que moi, je suis persuadé que Séville va descendre parce que ça fait plusieurs années qu'ils se sauvent. Ils se sauvent difficilement. Et vous savez ce qu'il y a de commun entre Séville et Valence, c'est que c'est les pires dirigeants qu'on puisse trouver en Espagne.
Peter Lim à Valence.
Avec des guerres internes. Aujourd'hui, c'est Del Nido, c'est le fils Del Nido qui est en procès avec son père. Enfin, voilà. Il y a tellement d'histoires derrière. Il n'y a plus d'argent. C'est très mal géré. C'est-à-dire que la faiblesse institutionnelle se ressent finalement à un moment sur le terrain. Parce que la faiblesse institutionnelle fait aussi que les sponsors, ils viennent pas, qu'il n'y a pas de confiance, etc. Donc, tu as raison d'être très inquiet pour ton club. À un moment, Séville va finir par descendre.
Voilà la réponse de Fred. Merci Guillaume.
Et Valence aussi.
Tu rappelles quand tu veux, attends pas 2 ans pour rappeler, n'hésite pas. Hein, on est là tous les lundis soirs.
Oui, 21h40. C'est peut-être un peu long.
D'accord, t'inquiète. À très vite Guillaume. Très bonne soirée à toi.
Merci.
Hugo est avec nous. Salut Hugo.
Salut les gars.
Supporter de Nancy de la Juventus. Ce qui est un point commun.
C'est bien ça. Michel Platini.
Platini.
Les gars.
Voyons. Platini.
Les gars, je plaisante évidemment, vous tombez dedans. Même Daniel se marre.
Pas sûr que
même
tu
Daniel
plaisantes.
Qui tombe dedans en général.
Je suis pas sûr que tu plaisantes, moi.
Mais t'es sérieux, quoi? Mais pour qu'il me prenne
celui-là. J'interviens pour prendre.
Il fallait voir physiquement aussi mon expression. Voilà, quoi.
Oh là là, quand même.
L'ironie ne manie pas l'ironie, mon cher Polo. Ouais, alors, Hugo, ta question est pour qui?
Pour Johan. Johan Crochet.
Salut, Hugo.
Bonsoir Johan. Alors j'ai une question sur un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a signé à la Juventus cet été pour une 20 millions d'euros, c'est Khéphren Thuram. Selon toi, quel rôle peut-il jouer dans cette Juventus, sachant que c'est un profil qu'on n'a pas à la Juve et qu'on n'a même pas trop en Serie A? Donc ouais. Est-ce que tu penses qu'il peut s'imposer comme potentiellement l'un des meilleurs milieux de terrain de Serie A?
Alors, un des meilleurs, on verra. Ouais. On va attendre un peu, mais il aura de la place. Il aura de la place parce que le chantier du milieu de terrain, c'est l'un des gros chantiers cette saison de la Juve. Il y a du monde. Hein. Il y a des joueurs avec des profils très différents et à la fois complémentaires. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu as des Fagioli et des Locatelli plus pour le contrôle du jeu, la gestion du rythme, la gestion de l'horizontalité, et tu as des milieux un petit peu plus cassants au niveau de la verticalité, donc l'inverse, comme Khéphren Thuram, comme Kop Meiners, qui a développé ça vraiment beaucoup à l'Atalanta et qu'il n'avait pas forcément d'ailleurs aux Pays-Bas à la AZ Alkmaar, qui était plus dans le contrôle. Donc tu as des milieux très complémentaires. Il faudra voir comment il veut organiser son milieu de terrain. Est-ce qu'il veut mettre Kop Meiners plus bas ou plus haut comme l'a fait Gasperini à l'Atalanta? Parce que ça va dépendre aussi de ça. Parce que Kop Meiners peut jouer dans un milieu à 2, dans un milieu à 3, peut jouer aussi en soutien de l'attaquant. Donc il y a pas mal de questions. Ce qui est très bien pour Khéphren, c'est que son premier impact à la Juve est très bon. Malheureusement pour lui, il s'est blessé rapidement, donc là il n'était pas disponible. Mais il reviendra après la trêve, il aura du temps de jeu. Et c'est surtout, pour lui, je pense que c'est le club et l'environnement dont il a besoin. Il a besoin de progresser, d'avoir plus d'exigences, de compléter son jeu. Et à la fois, l'entraîneur est excellent pour ça, pour développer les qualités de ses joueurs et aussi le faire progresser sur des thématiques où il est un petit peu plus en difficulté ou en tout cas où il a plus de progrès à faire. Mais aussi, il est dans le bon club pour apprendre ce culte du travail, de l'exigence au quotidien. Et Mota, il fait pas de cadeau. Attention, hein. Mota, t'es bon à l'entraînement, tu joues. Si t'as un statut et que tu fais une semaine catastrophique à l'entraînement, tu joueras pas.
Voilà la réponse, Hugo, très claire de Yohan. Tu rappelles quand tu veux, évidemment. Quelques secondes pour parler de Victor Osimhen. Hein, donc ça se confirme, un prêt à Galatasaray, ouais, par le Napoli. On rêvait de 130 millions d'euros à Naples, peut-être qu'on n'y a jamais cru. Lui rêvait de plus grands clubs en Première Ligue, voire en Ligue 1. Il voulait aussi venir à Paris. Ah. Il va finir en Turquie.
Ouais, c'est un peu bizarre, un peu presque du gâchis, parce que ça se termine comme ça. De toute façon, on savait qu'à partir du moment où Naples avait pris Lukaku, et que Conte joue avec un seul neuf de ce type-là, il n'y avait pas de place pour Osimhen. Enfin, en tout cas, pas de place pour un joueur.
Ils l'ont pas enregistré sur la liste des joueurs.
10 millions d'euros par an, aussi en termes salariales. Ils l'ont pas enregistré dans la liste des joueurs pour le début de saison, même si, attention, cette histoire de liste, ça peut bouger dans la saison. Hein. Donc, c'est pas
après la phase d'année, je crois.
Non, pas. Non,
et sans Ligue des Champions.
À n'importe quel moment.
Et sans Ligue des Champions également.
Sans Ligue des Champions, à Naples qui n'avait pas de Ligue des Champions. Que dire? En fait, tout le monde s'est trompé. Ça, c'est facile de le dire.
Tout le monde s'est vu trop beau, en fait. Hein. De Laurentiis s'est vu trop beau.
De Laurentiis voulait pas le lâcher, mais aussi parce qu'il y avait une pression populaire. Les tifosi napolitains voulaient pas que Gvisha et Osimhen soient vendus après le Scudetto, alors que c'était peut-être le moment pour capitaliser au max de leur valeur en marchande. Osimhen s'est vu trop beau aussi, et son agent, et c'est lui qui lui a fait miroiter aussi que Chelsea, Arsenal, United, City, tout le monde le voulait, tous les gros le voulaient. Finalement, c'était pas le cas.
Mais voilà, il va se retrouver avec Mauro Icardi et Michy Batshuayi à Galatasaray. C'est terminé. Alors, pas de questions pour l'Angleterre. J'ai l'impression que ce championnat est en décroissance. Il n'intéresse plus personne. On a permis à Julien de manger sa gelée royale avec ses enfants tranquille.
Un petit message rapide. Bravo, Inigo Llopis, champion olympique du 100 mètres d'eau.
Champion paralympique.
Paralympique, pardon. Du 100 mètres d'eau. Un garçon charmant que j'aime beaucoup. Et qui n'est autre que le fils de Luis Llopis, le préparateur des gardiens du Real.
Voilà, c'est terminé pour ce lundi soir. Merci Polo, merci Fred, merci Julie, hein, merci Johan. L'after tout de suite avec Daniel.
Adios.
Gilbert, ciao, ciao. Notamment, jusqu'à minuit. Bonne soirée à tous sur RMC. Et Flo Gautreau sera là également.